celles qui arrivent encore de venir, de se rajouter, mais on a déjà commencé la leçon. Parce que ce soir, on a un programme intéressant. Vous me le direz à la fin. ou alors, ouais, un programme assez conséquent. Super. Génial. Donc, la dernière fois, on avait vu que. Le thème de l'endettement, et ce soir on va parler du conseil. On va se plonger dans une leçon, dans un chapitre qui est pour moi un des plus importants de la formation. Je crois, c'est un des chapitres. On va voir des applications, on va voir des clés, on va voir des aspects pratiques, des principes. Et je crois que dans toute la formation, il y a cette leçon-là qui est, je pense, centrale et qui va être bénéfique à chacun. Je vous cache pas que j'ai eu des difficultés à la préparer et c'était pas la seule des leçons, mais en tout cas, je sens qu'il y a parfois des choses comme ça qui, on se demande parfois d'où ça vient, mais je sens qu'il y a des oppositions qui m'ont dérangé, qui m'ont chatouillé pendant ces temps de préparation et je pense que c'est un signe pour me dire que oui, il y a des choses derrière, il y a des enjeux. Donc, quelque part, je suis content, mais voilà, je suis preneur de vos prières, voilà, quand vous êtes à la maison. Super. Alors, vous m'entendez bien sur le net? Super. Ça marche? On peut y aller? Ok, super, nickel. Impeccable. Alors, je voudrais juste faire un petit check. Je vous avais lancé un défi il y a quelques semaines sur 1 Chronique 29-11. Vous savez, le long verset où on peut déclarer, etc., que Dieu est propriétaire de tout. Et comment ça sonne dans vos vies? Comment ça marche? C'est quelque chose que vous arrivez à mettre en pratique le matin, le soir, en vous levant, en vous couchant? C'est easy ou ça commence à s'affermir dans vos cœurs ou... Alors, toi Elisabeth, tu proclames dans le bus, c'est ça? Alors, je vais vous laisser prendre les micros, d'accord? Attends, micro, ouais. Toujours pas.
On m'entend?
Ah
Ah,
voilà,
ça y
très
est.
bien. Super.
Quand je prends le bus pour aller au travail, j'essaye de retrouver le verset. Enfin, ce sont trois versets, hein. Quatre.
C'est 1 Chronique 29, verset 11. C'est juste un
C'est
verset.
juste un,
Mais après, oui,
avec
de
trois
toutes les semaines.
phrases, ouais. Mais j'arrive pas à trouver mot pour mot, mais en gros, les idées, je les ai.
Nickel. Ouais, il n'y a pas besoin que ce soit mot
Régulièrement.
pour
Ouais,
mot.
voilà.
Ouais, super.
Et je trouve que c'est bien de le faire et puis de s'en souvenir et de le proclamer.
Nickel. Impeccable. Ok, je voulais aussi vous faire un petit rappel, comme je l'ai fait la dernière fois, j'en refais, il y a un peu plus de monde. La conférence qui se prépare au Portugal, c'est du 1er au 4 février. Si vous avez besoin de plus d'infos, venez me voir ou je vous ai envoyé le lien avec le flyer. Donc, c'est simplement une petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui ont envie d'y aller. Et si maintenant on fait un groupe, on peut peut-être se mettre d'accord sur les trajets, etc. Donc, venez m'en parler si vous êtes intéressés. Et je vous propose qu'on continue plutôt par prier et qu'on attaque la leçon de ce soir. Ça marche? Super. Bah, Seigneur, je te bénis pour cette soirée. Je te demande de prendre le lead et par ton esprit, Seigneur, de venir, de nous diriger, de diriger ma bouche, mes paroles ce soir, mais aussi de trouver en chacun de nous un terrain fertile pour que ces principes, ces clés, ces nouveautés ou bien ces rappels viennent trouver oui, ce terrain fertile pour porter beaucoup de fruits dans la suite, Seigneur. Merci, Seigneur. J'appelle ce soir ton esprit de sagesse, ton esprit qui est puissant et je te demande Seigneur de nous le communiquer, de nous remplir et de nous donner ces capacités Seigneur qui viennent de toi pour recevoir ce soir tout ce que tu veux nous donner. Merci Père pour ta bienveillance envers nous, ta fidélité. Je crois Seigneur que ce soir va être encore un excellent moment et je déclare le nom puissant de Jésus sur cette réunion, sur ce rendez-vous de cette semaine. Et je te remercie, Père, d'avance pour tout ce qui va se passer. Amen.
Amen.
Cool. Amen. Ok, alors le fameux moment où, oui, on va déclarer ce verset, le verset de la semaine. Qui c'est qui est motivé, sauf Ézéchiel, le champion des versets bibliques? On va lui donner une médaille, mais on devrait tous avoir des médailles. Qui c'est qui a envie? Il n'est pas très long, le verset de ce soir. Qui c'est qui a envie juste de le déclarer dans le micro? Sur le net, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez y aller aussi. Sachant qu'on sait que vous trichez pas. Si vous avez envie, personne qui se lève, personne qui a envie de. Très bien. Merci Elisabeth. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La référence? Proverbe 12, 15. Super. Est-ce que ça vous parle? Ce soir, on va voir la leçon sur les conseils, donc c'est forcément en rapport. Mais est-ce que vous êtes des personnes qui aimez prendre des conseils chez les autres? Est-ce que vous allez, avant de prendre une décision, saouler les autres personnes? Hey, il faut vraiment que tu me donnes ton avis. Pas une décision, mais un avis. Donne-moi un regard sur cette chose, je te la présente. Ou est-ce que vous faites selon vos propres. Elisabeth, je sais, oui. Ok, premier jour. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille assez directement dans le sujet, simplement directement et rapidement dans la leçon du jour. Je vais essayer de vous donner la parole, mais je vais être assez. Je vais tracer, voilà. Je vais tracer. Pourquoi? Parce que là, j'ai du contenu à vous donner. Qui prend du temps et j'ai envie de prendre ce temps de qualité avec vous et pas de le survoler. Donc ce soir, la leçon conseil, on va voir les jours 1 à 6 et on va essayer d'avancer assez rapidement. OK? Alors, le premier jour, bien sûr, en rapport avec la leçon précédente, la question qui disait, avez-vous des dettes et si oui, comment le Seigneur vous dirige-t-il pour vous en libérer? Alors, on regardait les commentaires de la leçon précédente et si des choses vous ont vraiment travaillé, des choses sur justement l'endettement, on a vu que c'était quelque chose qui n'était pas sur le cœur de Dieu, parce qu'il veut pour nous une liberté, une libération. Donc, comment vous avez est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager ce soir? J'aime quand les gens se battent pour prendre la parole. Ok. Qui c'est qui voudrait? Non? Ok. Pas de souci. Si personne veut prendre la parole, il n'y a pas de problème. On a vu que l'endettement, c'était pas nécessairement un péché, mais que contracter un emprunt, ça nous place dans une position spirituelle où on devient l'esclave de celui qui nous prête. D'accord? La parole est très claire là-dessus. Donc, en sachant ça et en comprenant donc la leçon précédente, j'aimerais accentuer le fait qu'il est bon de rembourser vos dettes si vous en avez le plus rapidement possible. On vient pas, on n'est pas là pour culpabiliser les gens, ok? On a fait des choix, on a fait des démarches, c'est pas un problème, mais il faut s'engager à le faire. Je crois que le Seigneur nous invite à vraiment dire. Ok, prends ça au sérieux, c'est ma parole, et sors de cet esclavage. T'as le droit, tu t'y es placé. C'est pas moi qui ai désiré ça pour mes enfants, mais je crois que y a un plan pour toi pour que tu puisses vivre pleinement libre. Ok, le jour 2, si ça va pour vous, on passe au jour 2. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. On l'a déclaré juste avant. C'était le verset du jour. Proverbe 13, verset 10, le suivant. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ce verset m'avait particulièrement parlé parce que parfois j'ai envie de. Quand on me demande de faire quelque chose que je ne suis pas d'accord, parfois j'ai envie de prouver à la personne qu'elle a tort. Et puis je me suis dit, wow, ça c'est l'orgueil qui parlait dans mon cœur. Donc, c'est pas bon. Proverbe 15, le suivant aussi, on a trois versets. 15, verset 22. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent. On voit l'importance de demander conseil. Donc, quels sont les avantages à demander conseil? Notez que dans Proverbe 12, verset 15, il y a écrit celui qui écoute les conseils, pas celui qui entend les conseils. Il y a une différence entre écouter et entendre, d'accord? Qui est bien réelle. Entendre un conseil, ça passe. L'expression qui dit c'est rentré dans une oreille et sorti de l'autre. Mais celui qui écoute un conseil, c'est quelqu'un qui prend ce conseil, pas forcément qui l'applique, mais qui le médite, qui l'évalue, qui le mesure. Voilà, le terme mesurer, je trouve que c'est un bon verbe pour décrire ce travail sur le conseil qu'on reçoit et qui ensuite évalue si on le met en pratique ou pas. D'accord? Et la décision revient à celui qui demande conseil, jamais à celui qui donne le conseil. On va le voir plus tard. Proverbe donc 13, verset 10, dit que l'orgueil provoque des querelles et que la sagesse est ceux avec ceux qui écoutent les conseils. Donc c'est bon d'écouter les conseils et Dieu estime que ceux qui font ça sont sages. Donc c'est bénéfique pour nous, exactement. Et plus on a de conseils, mieux c'est. D'accord? Donc c'est bien d'aller voir une personne, d'aller voir une deuxième personne, d'aller voir peut-être trois ou quatre personnes ou cinq, ou peut-être en fonction de votre projet, de consulter 10 personnes. D'accord? Et c'est important de cibler la personne que vous allez, à qui vous allez demander conseil. D'accord? Si vous avez un achat immobilier, n'allez pas chez le boucher demander un conseil. Allez peut-être vers un promoteur, quelqu'un qui est dans le milieu, quelqu'un qui a des connaissances dans les affaires, du bâtiment, etc. Voilà. Mais tout ça, ça peut paraître logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un a un exemple de situation où il a eu un excellent conseil et il a été béni? Est-ce que quelqu'un voudrait partager très courtement un témoignage? J'aurais dû prier pour la parole ce soir. Pour que les gens soient. Francine, vas-y, si tu peux avoir le micro, ce serait super.
Alors, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis déjà quelques années, mais j'avais rien fait de façon concrète en fait pour le mettre en œuvre. Et le premier conseil que j'ai eu par rapport à ça, parce que moi en fait, je me disais que j'avais pas encore les moyens, qu'il fallait que j'attende, etc. Et un matin, j'ai écouté un enseignement sur la procrastination. Et ça a été le premier conseil. C'était pas quelqu'un que je connaissais directement, mais c'était la parole de Dieu que, enfin voilà, qui a été une personne qui a été utilisée pour me parler. Et suite à ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben autour de moi, il y a des personnes que je côtoie qui sont à même de me donner. Peut-être que moi, j'ai pas les connaissances qu'il faut, mais qui peuvent m'aiguiller en fait et me conduire vers là où je veux aller. Et là, j'ai pensé à une personne en particulier et j'ai pris contact. J'ai rencontré cette personne et le projet que j'envisageais pour dans très longtemps, j'ai commencé à y aller enfin, de façon concrète pour dire que ben seul en fait c'est on se limite et quand on a d'autres avis, ben ça peut nous aider à avancer.
Excellent. La procrastination, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas, c'est le fait de remettre à demain, toujours remettre à demain. C'est un problème chez certaines personnes. Je l'ai rencontré, ce problème, et je lutte parfois contre ce problème. Mais super, franchement, ton témoignage, c'est encourageant. Et effectivement, Dieu veut qu'on travaille à plusieurs. Il nous équipe, il nous met les bonnes personnes autour de nous. Ok, troisième question. Pour le jour numéro 2, qu'est-ce qui vous retient de demander conseil? Souvent, quand on ne demande pas conseil, ça traduit quoi en fait? On a peur d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Donc c'est qu'on sait déjà dans notre cœur que peut-être la situation dans laquelle on va se mettre, elle n'est pas bonne, ou elle est dangereuse, ou elle est, c'est sur une pente assez risquée, d'accord? où on a beaucoup, oui, beaucoup de risques. Parfois parce qu'on sait mieux que les autres, on se dit, on n'a pas besoin de demander conseil. C'est de l'orgueil. On se dit, ok, moi je sais pourquoi je demanderai conseil, vu que j'ai l'avis qui est le plus affiné, qui est le plus pertinent sur la question. Je ne demanderai pas conseil, il n'y a pas besoin. D'accord? Souvent on est comme ça, ou de toute manière personne ne me comprend, ça peut être une réponse qu'on peut donner. Je l'ai eu. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, oui. Bah, de toute manière, personne ne me comprend, alors je vois pas pourquoi j'en parlerai. Ou pourquoi on essaierait de me comprendre vu qu'on ne me comprend jamais. Et ça fait plus partie du rejet. On a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Et ça, c'est une limite qui peut parfois nous empêcher de demander des conseils. Et c'est dommage. D'accord? Dieu nous encourage dans sa parole à vraiment demander des conseils. Il y a une raison. D'accord? Et on va voir ensuite les tenants, les aboutissants. La Bible nous encourage donc à chercher plusieurs points de vue autour de nous. D'accord? Mais pas, je le disais tout à l'heure, des gens qui prennent les décisions à notre place. Ok? Un conseiller, c'est pas un décisionnaire. C'est une personne qui va aiguiller, qui va donner des suggestions, ou à qui on pourrait demander, t'aurais fait comment à ma place? Ah, à ta place, moi j'aurais fait ça. Quand les gens, moi je sais pas si vous aimez donner des conseils, mais j'aime bien donner des conseils parce que je prends aucun risque. C'est la personne, je pars de ce principe-là, je donne le conseil, puis c'est elle qui risque la chose. Donc, je vais donner le conseil le plus, ce que j'aimerais, ce qui me coûte pas grand, moi, à moi grand chose, mais ce qui pourrait coûter beaucoup à la personne. Bien sûr, le meilleur, si on est dans un cas où c'est un ami ou c'est une personne qu'on aime beaucoup, on va faire très attention de donner le meilleur conseil, peut-être d'abord prier en amont, mais on va oser dire, on va oser proposer des choses qui vont peut-être être des challenges énormes, mais on va le suggérer. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est souvent ça. Ou parfois, on peut dire juste pour info, donne-moi juste ça pour info, je vais mettre ça dans la prière ensuite, mais qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Donc ça, c'est des choses qui sont bonnes pour nous. Et je vous encourage, si maintenant vous n'avez pas l'habitude de demander des conseils, d'essayer avec une personne, peut-être pas avec 10 d'abord, mais avec une personne. Ou prendre le réflexe que quand vous avez une décision, vous avez le mot conseil qui vient vous percuter. Alors quand vous allez faire vos courses, si c'est du lait de soja ou du lait de coco qu'il faut choisir, peut-être n'appelez pas 10 personnes pour choisir. On est d'accord? C'est simplement, on est dans les décisions qui vont impacter nos vies, dans les décisions qui vont nous coûter, dans les décisions qui vont coûter à notre famille, des choses comme ça, où on a besoin de demander des conseils. OK? Le jour 3. Vous êtes OK sur le deuxième jour? Le jour 3. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. Alors je m'arrête simplement là. Sur le net, c'est OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, OK? Oui? Ouais, alors, si je vais juste reprendre ce que tu as dit, il y a un écho en fait dans la sono. C'est simplement ce que Josué disait. Lui, ce qu'il retient, c'est le fait de donner un mauvais conseil, quelque chose qui pourrait être, c'est ce que j'ai compris, qui pourrait être simplement de sa propre intelligence, de sa propre initiative, etc. Peut-être quelque chose de pas inspiré de Dieu, qui pourrait guider la personne vers une mauvaise décision, quelque chose qui pourrait l'amener complètement dans la voie que Dieu ne voudrait pas. C'est bien ça que tu disais? Ok. Ok. Et ça, c'est quelque chose, ouais, qui peut parfois nous retenir. Ouais, d'accord. Effectivement. D'accord. Ouais. Tu veux dire que ça te sert de réponse ou ça te donne des clés, ça te rassure en fait, ou c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais, exactement. C'est sûr qu'un conseil, avant d'être donné, s'il est passé au crible de la parole de Dieu, s'il est passé même, on peut même, nous en tant que conseiller, demander conseil, dire qu'est-ce que tu me conseilles de donner comme conseil. Ça c'est super. Et effectivement, quand il y a plusieurs personnes, et puis surtout quand Dieu vraiment donne une direction très précise et qu'on donne cette direction-là à la personne, je crois, et on peut même dire oui, ça peut être vraiment inspiré de Dieu, j'ai l'intime conviction, on voit le résultat par la suite si la personne a fait confiance. Là, ça permet à la personne qui donne conseil déjà de prendre vraiment confiance en elle, de s'assurer, d'assumer ce qu'elle va dire aussi pour les prochains, et puis à la personne qui reçoit de vivre un super truc, quoi. Donc, c'est vrai. Valentin, tu voulais dire quelque chose?
Je voulais répondre à Josué, c'est ça?
Oui.
En fait, il y a deux choses. Si c'est toi qui demande conseil, ben, la meilleure des façons pour être sûr de ne pas être mal aiguillé, c'est justement de chercher plusieurs conseillers. C'est-à-dire que si tu n'en prends qu'un seul et que celui-ci n'est pas inspiré de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, ben, tu vas être mal aiguillé. Mais si tu en prends plusieurs, bah, il y aura forcément, tu auras plusieurs choix, etc. Tu pourras le mettre devant le Seigneur et prendre ensuite la bonne décision. Et de l'autre côté, si c'est toi qui prends conseil et si tu ne passes pas par un temps de jeûne et prière pour donner le conseil, bah, tu donnes ton expérience, mais la personne, c'est à elle de voir aussi d'autres personnes pour faire son propre avis, quoi.
Exactement. Et le fait que, alors je rajoute juste, le fait que tu aies plusieurs conseillers, peut-être, je m'adresse à tout le monde, hein. Le fait qu'on ait plusieurs conseillers, parfois on peut avoir plusieurs conseils qui reviennent, et du coup on peut se dire, ah, si j'ai plusieurs conseils, ils savaient pas, ils se sont pas parlé, voilà, il y a le même conseil qui revient, je pense que ça peut être un bon conseil. Et vas-y,
Je
Andrea.
voulais seulement dire que je crois.
Vas-y, attends, Josué, vas-y. Vas-y. Oui, carrément. On va voir justement de qui on va favoriser la réception des conseils. Ouais. Alors vas-y, Andrea. Ouais.
Ça m'est arrivé de demander des conseils et j'étais plus embrouillée que débrouillée, quoi. J'étais plus
La
dans l'embrouille
confusion.
que. Alors, vraiment, oui, j'ai pris un temps de jeûne et prière parce que, fin de compte, la décision m'appartient. Non? Et
Exactement.
les conseils sont. Voilà, c'est bien d'avoir des conseils. D'après moi, de demander à des gens qui sont dans la foi. Mais quand tu as besoin d'un conseil dans le domaine professionnel, technique ou je ne sais pas quoi, acheter disons une centrale qui va chauffer toute ma maison, je dois te demander à un professionnel quand même aussi, tu vois. Après, je me dis, tous ces conseils, les mettre devant le Seigneur et discerner, avoir le discernement de choisir le meilleur.
Effectivement. ça nous permet de grandir aussi devant Dieu dans la réflexion, dans l'écoute de ça, dans l'écoute du Saint-Esprit, etc. Vas-y, Raymond.
Non, c'est juste pour rappeler la série de messages qu'on avait fait sur la direction de Dieu. C'est le conseil, c'est la même chose. Oui. On demeure dans la parole.
Hein, oui.
Que le Saint-Esprit nous parle.
D'accord. Oui.
Les circonstances, qu'elles s'adaptent, et puis qu'on soit dans la paix. Et quand ces choses sont là, on peut se dire qu'on est au moins dans la direction de Dieu.
Nickel. Donc oui, la parole de Dieu, les circonstances, demeurer dans la parole, les circonstances, la paix, le Saint-Esprit, et le cinquième, c'était quatre. C'est vrai que la paix de Dieu est un indicateur dans notre vie qui peut vraiment, au fond de nous-mêmes, nous montrer que, waouh, si on n'a pas la paix, attention, peut-être pas s'engager tout de suite. Ok. Merci en tout cas, Josué, pour ton retour. Et c'est vrai que c'est très important, on va le voir, de prendre des conseils de personnes d'un certain profil. Ok. Alors, j'étais justement sur le psaume 16, verset 7. « Je bénis l'Éternel car il me conseille. » On est au jour 3, pardon. « Même la nuit, mon cœur m'instruit. » J'aime ce verset qui dit que Dieu peut nous parler la nuit, des rêves, c'est là où on voit que oui, les rêves sont là aussi peut-être pour nous conduire, nous montrer des choses. Et j'ai déjà entendu des témoignages où des personnes ont reçu des choses dans les rêves pour quelqu'un, et c'était exactement la situation qui devait faire, dans le cas c'était un contrat, qui devait faire très attention parce que la personne était dans les magouilles, et ça a préservé la personne de contracter cette affaire. Et quelques temps après, l'autre personne s'est fait arrêter, était en prison, etc. Et c'était une affaire assez... C'était Paul Goulet, précisément le pasteur d'une église de Las Vegas qui avait témoigné ça. J'avais lu, j'avais été percuté. Il a dit, c'était la première fois que je recevais un rêve, une direction tellement précise de Dieu, je n'osais même pas trop la partager avec mon ami. Et finalement, il l'a fait en disant avec des pincettes, écoute, j'ai reçu ça, je voudrais juste t'alerter, te mettre en... Mais maintenant, tu fais ce que tu veux et tout. Et le gars, il a dit, ok, je vais essayer de voir et tout. Et il a été préservé. Donc, la nuit, on peut recevoir des choses de Dieu. Le psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est tellement bon de savoir que Dieu, ok, dans tous nos choix, nos décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il a toujours son regard sur nous et il ne nous lâche pas des yeux, il nous instruit. Alors le fait d'instruire, ça ne veut pas dire qu'il nous empêche de faire des erreurs, parce que dans l'erreur, on va aussi apprendre des choses, mais il nous montre la voie qu'on doit suivre. Et si on comprend ça, peut-être que, ok, on sait qu'on a un Dieu qui veut nous diriger, nous conduire, nous montrer le meilleur chemin à suivre, eh ben peut-être qu'on doit lui demander aussi des conseils, ok ? Et il est notre conseiller. D'ailleurs, un attribut du Saint-Esprit, c'est d'être un conseiller. Donc, quoi de meilleur de demander au meilleur des conseillers ce qu'il pense ? Et en plus, c'est une promesse, donc il sera fidèle pour accomplir cette promesse. Je ne vais pas lire tout le verset, mais Josué 9, versets 14 à 20, nous parle donc d'une histoire où justement, ils n'ont pas suivi les conseils. Ils n'ont pas, vous l'avez lu, ils n'ont pas consulté Seigneur et ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'il aurait fait, vers quoi il veut, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi sa volonté, quel est son cœur sur la situation qu'il vivait. Et... Le psaume 106 appuie ensuite le verset 13 à 15. Ils oublièrent vite ce qu'il avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Ils eurent envie de ce qu'ils n'avaient pas. Au désert, ils mirent Dieu au défi et Dieu leur donna la viande qu'ils réclamaient. Il les rassasia jusqu'à l'écœurement, etc. Donc on voit qu'il y a une attitude, il y a une démarche, une position que le peuple a pris envers Dieu qui était peut-être pas la bonne, et il y a eu des conséquences qui n'étaient pas les bonnes pour eux non plus. Ils ont vécu dans le désert, ils ont... Vous imaginez quelqu'un qui vient vous demander « Oh, Ouais, j'ai pas à manger, alors que tu avais promis de t'occuper de cette personne-là. Au bout d'un moment, bah, Dieu, ce qu'il a fait, c'est un peu étonnant parce qu'il réagit d'une manière que peut-être on se dit, mais c'est un peu humain, ça, le fait de, ok, tu voulais ça, bah, maintenant je vais t'en donner, mais jusqu'à ce que t'en peux plus, que t'en peuves plus, et que tu sois vraiment écœuré de ce que tu m'as demandé, et tu verras que c'était peut-être pas la bonne décision, mais toi, tu voulais ça, maintenant je vais te le donner. Et c'était un peu comme ça que je le voyais, et je me disais, c'est marrant. Je crois qu'il y a une certaine dose d'humour. Josiane, tu parles souvent de l'humour de Dieu et tout. Et je trouve que, je pense que ça a été une leçon pour le peuple. Alors, à nous aussi de voir et d'en tirer une leçon. Donc, les conséquences, on a vu que... au final, dans le passage où Josué... dans le passage Josué 9, pardon, on voit que le peuple est carrément parti adorer d'autres dieux. Ils sont carrément écartés de Dieu. Si on va au bout de l'histoire, ça va très loin. Parfois, on peut rater une direction et puis tellement s'entêter, tellement se dire que non, bah, y a des gens qui nous donnent des conseils autour de nous, on les écarte et puis on va dans un mur qui va nous conduire peut-être même jusqu'à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quelque chose de grave devant Dieu parce qu'on le remplace complètement. Et, alors, ça ne se fait pas tout de suite, mais il y a un processus, vous l'avez lu, et ça vient. Ça vient dans nos vies, ça s'installe, etc. Donc attention, le fait de demander conseil, c'est je crois, et je me parle en même temps que de le dire, c'est une étape qui est, je crois, primordiale, qui est intéressante à vraiment établir dans nos vies, parce que ça peut nous éviter des vrais dégâts dans nos vies aussi. D'accord ? Et plus on commence à le pratiquer quand on est jeune, c'est quelque chose qui va s'établir dans notre vie pour plus tard et dans notre famille, dans nos relations au travail. Parfois au travail, ça fait plaisir à quelqu'un quand on demande à un collègue hey, « qu'est-ce que t'en penses ?» Ça le met en valeur. Il y a des choses qui peuvent se mettre, qui peuvent se construire sur la base de simplement poser une question. Et au contraire, de finir dans l'idolâtrie, je crois qu'on peut finir dans un... Comment dire, un schéma de gloire pour Dieu. Quelque chose qui va vraiment rendre gloire à Dieu, qui va honorer Dieu. Parfois, peut-être la personne va se dire, lui, il me demande des conseils, avec lui, je peux vraiment échanger, je peux vraiment, ok, je peux lui faire confiance aussi, parce que c'est une personne qui est ouverte et qui accepte de recevoir l'avis de quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est parfois une piste ou une porte qui peut conduire un non-chrétien à se dire, waouh, à s'intéresser à nous, à dire, qu'est-ce qui fait que tu poses toujours des questions comme ça ? C'est simplement un principe que mon Dieu, il aime trop. Ah bon ? Et ça peut ouvrir une piste. Enfin, je le vois comme ça. OK ? On a vu, oui, que... Enfin, on l'a lu. On l'a pas lu, mais vous l'avez lu dans l'étude de la semaine. Dieu envoya le dépérissement. C'est ce qu'on voit au psaume 106 que je lisais tout à l'heure. Dieu envoie le dépérissement dans le corps de ces Israélites. Et c'est vraiment dommage. Ça finit mal. OK ? Oui, alors, est-ce que tu peux prendre le micro ? Vas-y, Raymond.
Comme quoi, de ne pas suivre les conseils, ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences dans l'affaire de Josué, mais ça a eu des conséquences pour David. Et pendant 3 ans, ils ont eu la famine. Donc, des années et des années plus tard, à cause de l'histoire de Gabaon.
Ça s'est projeté même plus loin encore.
Ça s'est projeté plus loin parce qu'ils ont pu... Okay. Voilà. Enfin, bref.
Excellent.
C'est en 2 Samuel, si vous voulez.
Et je crois effectivement que les décisions, du coup, qu'on prend, parce que le peuple a pris une décision au final, d'accord ? Eh bien oui, ça a un peu impacté notre vie, la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et sur des générations et des générations. Et après, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais oui, ça peut engendrer même des malédictions, ça peut engendrer des choses qui sont générationnelles, qui sont... Voilà, ça peut aller très très loin. Et quand on revient, on dit, mince, si seulement j'avais écouté ce conseil, ou si seulement mes arrières, parce que quand on s'en rend compte que c'est sur toute la famille, ben, si seulement ils avaient écouté un conseil, parce que peut-être qu'on a eu un témoignage d'un grand-père, d'une grand-mère qui dit oui, j'ai pas écouté ce conseil-là. On aurait évité tout ça. Donc, effectivement, comme tu dis, Raymond, ça peut vraiment impacter beaucoup de personnes, OK ? Donc, comment Et ça tombait super bien parce que il y avait la question de te rendre un petit témoignage de quelque chose que vous avez vécu sur la base d'un mauvais conseil. Est-ce que quelqu'un voudrait justement rapidement dire, ouais, moi j'ai suivi une fois, enfin j'ai pas voulu prendre des conseils et ça m'a emmené là. Je m'en veux, mais heureusement la chose c'est changé, Dieu a agi, etc. Est-ce que quelqu'un voudrait donner un court témoignage? Et s'il n'y en a pas, on passe à la suite. Ok. Alors, mais c'est bien, ça veut dire que vous êtes tous sages, vous avez tous demandé des conseils, et je crois que c'est mieux. Et je suis content que tout le monde ne lève pas la main et dise, oui, moi j'ai vécu des choses super dures et tout. Et je crois que au fond de nous-mêmes, on sait. C'est peut-être pour des petites choses, mais il n'y a aucun problème. Francine, tu voudrais rajouter quelque chose? Eh bien, je te laisse la parole.
Le micro. Ah, merci. Alors, moi, en fait, ça m'est arrivé il y a quelques années, pendant que j'étais encore à la fac de droit. J'étais complètement obnubilée par mon projet initial qui était celui d'être avocate. Et donc, je ne faisais que. J'avais des concours à faire. Ça fait que. Et comme je l'avais déjà raté, je consacrais mon année à ma prépa. Et je faisais que ça. Et personne n'osait trop me contredire parce que quand j'ai une idée en tête, personne. Voilà. C'est très difficile de m'en défaire. Et donc, une fois, j'avais rencontré Sarah qui vient maintenant ici à l'église. Et c'était un dimanche et on était assises. Elle me disait, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Alors je lui racontais mon parcours et ce que j'étais en train de faire. Et elle me dit, ah, mais tu fais que ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et moi, en fait, je l'ai presque pris comme une insulte qu'elle ose, voilà, dire, contredire mon projet de vie. Et en fait, aujourd'hui, je comprends juste que c'était hyper sage. J'aurais pas dû être focalisée comme ça et faire que ça. Il aurait fallu que je pense à autre chose. Et pareil, à l'époque, je crois que quand je le repassais pour ma dernière ou avant-dernière fois, c'était avec Patricia que je discutais beaucoup. Et je sais qu'elle ne me l'a jamais dit ouvertement, mais je sentais qu'elle voulait aussi me dire, est-ce que tu ne penses pas que tu es faite pas forcément pour ce que tu sur la voie sur laquelle tu es, mais sauf que je donnais droit de regard à personne. Donc ça m'a beaucoup coûté et ça fait qu'aujourd'hui, je suis plus ouverte aux personnes qui sont autour de moi à écouter. Voilà.
Super, merci pour ton témoignage. Pour répondre justement à la question numéro 3, tout de suite pour enchaîner, comment recherchez-vous le conseil du Seigneur? Francine l'a expérimenté au travers de ses amis. Des amis qui étaient chrétiennes, ok, peut-être c'était une des façons que Dieu voulait se servir pour parler à Francine, parce que Dieu sait comment nous parler et Dieu sait comment on va écouter. Et parfois ça passe par le fait d'écouter une amie, un ami, etc., une personne. Il est bon de chercher le conseil auprès des autres chrétiens, des personnes qui ont la foi en Dieu, en Jésus-Christ, basée sur la même foi que vous. De chercher des conseils dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est ce que disait tout à l'heure Raymond. Et les indicateurs de bons conseils peuvent être une paix intérieure, effectivement. D'accord? Ça, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'était ce qui répond à la question numéro 3 du jour 3. C'est OK pour vous? C'est toujours OK pour vous sur le net? OK, super. On peut passer donc au quatrième jour. Le psaume 119, verset 24, dit: Ce que tu as ordonné me ravit, c'est là que je trouve les bons conseils. Le verset 105 du même chapitre dit: Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. J'aime beaucoup le dire ça quand je suis dans ma voiture ou des choses comme ça. Je dis: Seigneur, ta parole, c'est comme une lampe à mes pieds. C'est une autre façon, une autre traduction. Et j'aime tellement que tu me guides au travers de ta parole et tout. Ça honore la parole de Dieu quand on le déclare comme ça. Et je crois que Dieu est la parole et la parole est Dieu. Donc du coup, on honore Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. En fait, ce verset, il est en train de dire que la parole de Dieu, c'est notre manuel, c'est pas à prendre à la légère, il y a tout dedans, d'accord? Et il suffit, entre guillemets, de la creuser, de la sonder, d'une façon qui va, comment dire, d'une façon qui va nous permettre en fait d'assurer notre décision sur la parole de Dieu. Et quand Dieu nous met une conviction associée à un verset, on peut dire, oh Seigneur, tu m'as parlé là. Ce verset, il parle exactement à ma situation. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai dû prendre parfois des décisions. Et je savais que le manque de paix, par contre, enfin le manque de paix, j'avais des craintes. Attention à ne pas confondre, j'ai pas la paix avec la crainte, d'accord ? Et pour avoir la paix de Dieu, je devais placer la parole de Dieu sur mon cœur. Ce qu'il disait dans ma situation, d'accord, pour que j'ai la paix et non plus la crainte. Et du coup, Dieu m'a vraiment donné un verset, ça m'a sauté aux yeux, et je le déclarais jour après jour, jusqu'à ce que je vive la bénédiction. Et la bénédiction est venue, d'accord. Et c'était important. C'était important pour moi que je la formule, que je déclare la parole de Dieu, je la place sur mon cœur, pour que la crainte s'en aille, la paix, comme disait Raymond, arrive sur mon cœur, et que Dieu puisse honorer sa parole par une situation, une circonstance miraculeuse. Ok ? C'était pour mon travail il y a 4 ans. Je pourrais vous raconter des témoignages en live, de vive voix ou entre quatre yeux si vous voulez, mais pas tout de suite. Hébreux 4, verset 12, nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc en fait, je ne sais pas si vous avez médité ce verset déjà, si vous êtes coupé avec une lame de cutter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais chez SOS Main plusieurs fois. C'était, voilà, super. Mais quand on comprend qu'une lame de cutter, ça coupe super bien, et bien la parole est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Deux tranchants, ça veut dire que les deux côtés de l'épée sont tranchants. Et si on étudie un petit peu l'histoire et tout ça féodal, ben ça permettait aux chevaliers de taper dans les de trancher dans les deux sens, et ça leur permettait de gagner du temps en fait. Et ceux qui avaient ce genre d'épée étaient beaucoup plus ils partaient avec un avantage sur leurs ennemis. Et quand la parole de Dieu nous dit que justement cette parole-là, elle est encore plus tranchante qu'une épée comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a, et elle va jusqu'où ? Elle va jusqu'à l'âme, jusqu'à l'esprit. Là où aucune épée, aucun scalpel, aucun cutter, aucun instrument de chirurgien, de médecin ou de qui vous voulez ne peut aller séparer, couper, dissocier les choses. Ok ? Donc la Bible peut-elle servir de conseiller et pourquoi ? Ben, on l'a vu dans les versets qu'on vient de citer, mais j'aimerais vous rajouter un verset, c'est Jean 1, verset 14. Je ne sais pas s'il est dans le livre, je ne crois pas, je l'ai rajouté. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils, unique, venu du Père. » La parole, c'est Jésus. C'est Jésus et il est vivant aujourd'hui. Et j'aime à l'idée de penser que quand on s'adresse à Jésus, on dit « Seigneur Jésus, révèle-moi un truc, montre-moi aujourd'hui, j'ai besoin d'un conseil. » Et on peut s'adresser à Jésus, il est la parole. Et on a vu que la parole était un bon conseiller, donc Jésus est un bon conseiller. Ok ? Important de mettre vraiment Jésus au centre. Jésus a tout accompli pour nous et il va encore accomplir des choses pour nous. Il a tout accompli, mais il va encore manifester sa grâce envers nous. Il va encore nous diriger. Il n'a pas juste dit maintenant je me retire et fais ta life, mais il veut prendre vraiment part dans nos vies. Donc Jésus est vivant. 1 Pierre 1, verset 23, c'est aussi un verset que je vous suggère. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc si la parole est vivante aujourd'hui, si Jésus est vivant aujourd'hui, ça veut dire que cette parole peut encore me parler aujourd'hui. D'accord ? Et souvent, j'entends des gens qui me disent, parfois, Dieu ne me parle pas à moi. Il parle à mes pasteurs, il parle à des gens qui sont super spirituels, il parle à des gens qui jeûnent 40 jours tous les deux mois. Mais à moi, il ne me parle pas. Et j'aimerais vous briser ce faux raisonnement, parce que la chose spirituelle, mais de base, la plus simple qu'on peut faire, pour entendre Dieu nous parler, c'est de lire sa parole. Parce que sa parole est vivante, parce qu'elle est efficace, elle va nous parler. D'accord ? Et c'est souvent ce qui pêche dans la vie des gens, c'est qu'ils ne prennent pas le temps juste d'ouvrir la parole. Tu veux écouter Dieu, tu as envie qu'il se manifeste à toi dans ta chambre, qu'il y ait une lumière ou qu'il y ait une... Et j'étais aussi un peu à penser ce genre de choses. Mais commence. Oui, toutes ces choses sont vraiment bien. D'avoir une visitation du Saint-Esprit, de tomber en extase, ou d'avoir des choses, on le voit dans la parole de Dieu, c'est des choses possibles pour ses enfants, ou même pour des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui s'approchent de lui. Mais commencer par lire la parole, c'est une première étape pour qu'il nous parle. Et je vous assure que vous savez quand il vous parle. Vous pouvez lire X fois le même verset, et la Xème fois, il vous parle, il vous saute aux yeux, et vous savez que Dieu vous parle. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors, je voudrais vous communiquer un bon plan, si vous voulez noter. Il y a une formation que j'ai faite, parce que parfois on me dit « Ah, j'entends pas la voix de Dieu ». Je dis « Ok, moi non plus, j'entendais pas. Moi aussi, j'ai du mal. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ?» J'ai essayé de trouver un outil. Et sur Top Formation, du Top Chrétien, notez-le si vous voulez sur un petit bout de papier. Il y a une formation gratuite en 12 vidéos. Je l'ai fait, c'est excellent. Donc, on a 12 petites vidéos qui durent pas très longtemps, je crois que c'est un quart d'heure la vidéo, et on apprend toutes les façons que Dieu utilise pour nous parler. C'est pratique, c'est un pasteur, David Terry qui s'appelle, c'est un jeune pasteur, et il était ancien prof de physique-chimie, alors il apporte ça avec vachement de... j'ai trouvé excellent. Et tu es en train de la faire, Jean? Ok, nickel. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire à mon travail. Ça dure 15 minutes. Si vous avez envie, vous pouvez prendre un 15 minutes de prière tous les matins avec cette vidéo. Il reçoit une parole de Dieu et il nous la communique. Il nous dit ce que Dieu a vraiment envie de nous donner spécifiquement pour chaque moment de ce 12 jours de formation. Et c'est super. La formation, c'est entendre la voix de Dieu, je crois, un truc comme ça. Vous allez sur Top Chrétien, vous te tapez Top Formation, et puis vous allez le trouver. Ou sur YouTube, vous pouvez tout de suite trouver. Je peux envoyer le lien pour ceux qui veulent, etc. Aucun problème. Ça marche ? Donc ça, c'est une petite formation qui nous permet en fait de creuser tous les aspects. Il rentre dans le sujet et puis il va nous expliquer toutes les façons que Dieu utilise pour nous parler. D'accord ? Et puis il développe, et il y a des choses vraiment très intéressantes à recevoir. Et ensuite, il nous lance dans la pratique. Et vous allez voir, ça va changer. Allez, on continue. Psaume 119, versets 98 à 100. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace, que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. » Alors, c'est un verset qui peut faire sourire, qui peut démanger certains, parce que d'après cette parole-là, on sera plus sage déjà que nos ennemis. Nos ennemis, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est ceux qui sont vraiment opposés à Dieu, c'est ceux qui nous barrent la route sur le plan que Dieu veut qu'on accomplisse. Mais on sera plus sage qu'eux. D'accord ? Parfois, on pense que nos ennemis, ils ont plus de réussite, ils ont plus de ci, plus de ça. Mais non, là, la parole nous dit qu'on sera plus sage qu'eux. Et on sera plus avisé que nos maîtres. Nos maîtres, à l'époque, effectivement, le contexte, c'est que les maîtres, c'est ceux qui dirigeaient, ceux qui étaient en pouvoir d'autorité. On est plus avisé que nos maîtres. Et parfois, on se dit, mais mince, monsieur le président, pourquoi t'as pris cette décision-là ? C'est vraiment pas la bonne. Et oui, vous pouvez être vraiment plus avisé que monsieur le président, mais Dieu vous dit d'honorer aussi vos autorités et de prier pour eux. Et c'est pour ça, parce que Dieu se sert des choses, des enfants de ses enfants, qui ont peut-être pas pouvoir d'autorité dans la nation, ou pas encore, et il peut justement influencer des changements et amener des changements par ces personnes-là qui sont toutes simples et qui prient. D'accord ? Donc, on est plus avisé que nos maîtres, selon ce verset. Et le dernier, j'aime bien, c'est parce qu'on peut aussi avoir plus d'intelligence que les vieillards. Alors, dans le sens que les personnes plus âgées, alors, les personnes ici qui ont de l'expérience, qui ont un certain âge, ne vous sentez pas offensés. Mais oui, parfois, on a un jeune, beaucoup plus jeune, qui a même pas d'expérience dans la vie, qui vient nous dire un truc. Il dit, mais comment il sait ça? Comment il a fait pour... sans doute que l'Esprit de Dieu a parlé au travers de sa bouche à ce moment-là. Et à contrario, ne pas le prendre mal, mais surtout de s'en servir, de dire waouh, de reconnaître que Dieu, oui, agit dans les personnes plus jeunes que nous et qui nous conduit. Il nous aime. Il se sert de ce moyen-là parce que peut-être on saura bien écouter ou ça va nous frapper. Ok. Et j'aimerais juste, avant de passer au cinquième jour, vous demander, et pas besoin de donner une réponse tout de suite, mais est-ce que vous lisez et vous étudiez régulièrement votre Bible? Est-ce que vous l'ouvrez? Est-ce que vous laissez la possibilité à Dieu de dire quelque chose? Ou est-ce que votre Bible est... Alors, on l'entend souvent dans l'Église, ça, et ça ne devrait pas. Et on devrait dire, waouh, j'ai du mal à la fermer. J'ai vraiment du mal à fermer ma Bible, ça m'énerve. Mais je suis aussi pareil. Et je me pose le premier à qui j'ai posé ces questions, c'était moi, c'était mon cœur, c'était... Donc c'est pour ça. Mais je crois qu'il y a besoin parfois d'une petite piqûre comme ça qui nous encourage à chercher la parole de Dieu. Le cinquième jour, est-ce que ça va pour vous? Quatrième jour? Ok. Proverbe 1, verset 8 à 9. « Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. Ils seront comme une parure gracieuse sur ta tête ou un collier autour de ton cou. » La question, c'était qui devriez-vous compter parmi vos conseillers? Ça revient à la discussion et à la réponse que Josué nous donnait avant. Oui, effectivement, nos parents devraient être des personnes dont on écoute les conseils. D'accord? Et parfois, ça peut être dur. Ah, purée, mes parents, d'accord. Ça ne veut pas dire que si mes parents ne sont pas chrétiens, que je ne dois pas écouter leurs conseils. Qu'est-ce qu'on a vu avant? C'est que la décision m'appartient. Mais que ce ne sera peut-être pas leur conseil que je vais mettre à la première position et donner du poids. Mais j'ai besoin de leur demander conseil quand même. Et à votre avis, qui est le meilleur conseiller pour un mari, pour une épouse? La deuxième question est pourquoi? Donc le mari et la femme sont mutuellement les meilleurs conseillers. C'est dans le plan de Dieu que justement un mari et une femme travaillent l'un envers l'autre. On peut demander des conseils à sa femme et souvent, vous l'entendrez, une femme a du discernement que le mari n'a pas. Et Dieu a placé notre femme à nos côtés parce que c'est une aide précieuse. Et vous, les femmes, et je le dis, c'est vrai que vous avez peut-être une responsabilité, mais à nous, hommes et maris, ou futurs maris, etc., de nous asseoir aussi et de stimuler cette responsabilité. Est-ce qu'on peut dire peut-être, non, bah, chérie, c'est moi qui prends les décisions dans notre couple, t'as rien à dire. En plus gentil, parfois, on peut dire, ah, mais j'ai déjà pris la décision, mais tu sais bien que je t'aime. Et voilà. Et du coup, ça, c'est plus gentil, mais en gros, on est en train de dire ça. On est en train de dire que ça repose que sur nous. Ok. Proverbe 11, verset 14 dit « Un peuple périt quand il n'est pas dirigé, et un grand nombre de conseillers assurent la victoire. » Ça revient à ce qu'on disait au début de la leçon. Plus on a de conseillers, mieux c'est. Mais là, on est en train de voir qu'effectivement, déjà notre mari ou notre femme sont des associés qui sont à ne surtout pas mettre de côté. Nos parents, qu'ils soient chrétiens ou non, mais on va le voir aussi, rechercher le conseil de personnes qui sont dans la foi. Ecclésias 4, versets 9 à 12. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à deux, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un seul homme. Plus une corde a deux brins, plus elle est solide. Et c'est souvent le verset qu'on utilise pour les mariages. Et ce verset est vraiment... Ce verset est vrai, mais ceux qui vivent en couple, ceux qui sont mariés, etc., l'ont expérimenté ou vont l'expérimenter. Et c'est quelque chose qui est important de considérer. Les versets ont été suffisamment clairs. Comment ces versets nous parlent-ils ? Sans directive, le peuple périt. Souvent, on dit sans vision, le peuple périt. Sans conseil, le peuple périt. On voit là, que oui, effectivement, il y a vraiment besoin qu'on entende la parole de Dieu au travers de la bouche de quelqu'un, directement dans le livre ou peu importe l'outil que vous utiliserez, mais c'est très important. Que deux ou trois personnes qui travaillent ensemble sont plus productives qu'une seule. Donc là encore, on voit que oui, il faut s'entourer, ce que disait Francine, très important de s'entourer et de voir que effectivement, on a besoin de se tenir les coudes. Et quand tout va bien, ok, mais quand tout va mal aussi, et que on puisse compter sur l'une ou l'autre personne. Et j'aimerais justement vous demander, est-ce que vous avez un mentor ? Est-ce que vous savez ce que c'est un mentor ? Oui, certains non, oui. Justement, dans le terme de conseil, je te donnerai la parole tout de suite, Francine. Le mentor, justement, va être cette personne-là. On n'en a pas 36, mais c'est une personne. Et en cherchant la définition, j'ai bien aimé, parce que le mentor, c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est un conseiller expérimenté. Ça veut dire qu'il a déjà vécu des choses, qu'il a un retour sur expérience, une personne sage. Et le mot qui vient, j'ai beaucoup aimé, c'est une personne attentive. Quelqu'un qui est mentor est une personne attentive. Et c'est vachement intéressant. C'est pas quelqu'un qui va bâcler la réponse ou bien bâcler le temps qui nous attribue, mais qui va vraiment prendre le temps, qui va vraiment s'arrêter et dire « Ok, je vais considérer ta demande ou le conseil que je vais te donner, je vais le travailler, je vais le peaufiner. » Et c'est une personne à laquelle on peut faire entièrement confiance. Et justement, ça peut être des parents, ça peut être une amie, ça peut être un mari ou une épouse, mais jamais trop entendu cette situation-là, parce que souvent, ça nous permet d'avoir une personne en plus. Notre mari, notre épouse, c'est souvent notre meilleur ami ou notre meilleur ami avec un E, et à qui on va se confier, etc. Et d'avoir un mentor extérieur, peut-être qui ne connaît pas toujours le contexte ou qui ne nous connaît pas dans notre vie de tous les jours, peut parfois vraiment être plus pertinent qu'un tout proche. Voilà. Francine, est-ce que c'est OK ? On passe au sixième jour. C'est OK pour vous, le cinquième ? Je passe assez vite. C'est vrai que c'est des versets que vous pouvez retrouver, relire, voilà. Mais c'est ce qui vient après le sixième jour qui m'intéresse aussi ce soir, et j'aimerais mettre l'accent plus là-dessus. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il le met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Super. Ce verset nous encourage à éviter le conseil de certaines personnes, parce que Dieu nous encourage à demander conseil, il nous dit à qui on peut le faire, mais ici il nous dit attention, ne cherchez pas conseil auprès de telle et telle personne. Et là il dit qui ? Le conseil des méchants. Waouh ! Est-ce que c'est parlant ça ? Est-ce que ça veut dire que mon copain à l'école était méchant ? Ça veut dire que je ne veux pas lui demander des conseils ? Je caricaturise un petit peu, mais une personne méchante, d'après la parole de Dieu, c'est une personne qui ne marche pas selon les voies de Dieu. C'est vraiment une personne qui s'en moque, d'accord ? C'est pas une personne qui ne savait pas que Dieu existait, et finalement il s'y intéresse. Non, c'est vraiment une personne qui dit « Moi, de toute manière, je m'en fiche et je suis catégorique là-dessus. » Dieu appelle une personne comme ça vraiment méchante, méchant, d'accord ? Et c'est intéressant parce que dans la Bible certains versets, dont Lévitique, ça c'est en plus si vous voulez noter, 19 verset 31, nous dit d'éviter les conseils de certaines personnes en particulier, les voyants, les médiums, les spirites. Donc c'est des personnes qui font des choses spirituelles que Dieu n'aime pas. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vont quand même les voir. Beaucoup de personnes vont quand même se chercher des conseils et au moins avoir un droit de regard dans leur vie. Et c'est très malsain. Donc à éviter, à proscrire même, à sortir du choix des possibilités des conseillers que nous aurions à disposition. Okay. Et parfois, c'est tentant de se dire, peut-être, il suffit juste d'envoyer un SMS au 3215, je sais pas le numéro, mais et puis je vais savoir combien d'amoureux j'aurai et tout. Enfin, bref, c'est vraiment très, très subtil, c'est très pernicieux et il faut faire très attention. Il nous met en garde aussi, la parole de Dieu nous met en garde contre certaines pratiques, les pratiques occultes, par exemple l'horoscope, les tarots, lire dans les lignes de la main, etc. Ah tiens, tu pourrais me dire exactement qu'est-ce qui va m'arriver dans mon travail et tout ça. On va se mettre sous le joug de choses que Dieu n'aime vraiment pas, donc à proscrire. Et une personne qui, je crois, devrait attirer notre attention et dire « Ok, attention, cette personne, je vais peut-être éviter ou je vais mesurer vraiment. » C'est une personne qui aurait un intérêt dans l'affaire où vous lui demandez des conseils. D'accord ? Si maintenant, je demande conseil à quelqu'un qui est dans l'immobilier qui pourrait avoir des bénéfices un jour dessus, il va peut-être me donner un conseil qui va aller dans son sens. Il ne va pas être impartial. Donc, on va chercher des personnes qui ont un conseil impartial. Et ça, c'est très important de noter. D'accord ? Ça peut être logique, mais parfois on se dit, mince, si cette personne, j'avais su qu'elle était intéressée par mon projet, ou si j'avais su qu'il y avait un intérêt pour elle dans la situation, j'en aurais peut-être pas parlé ou j'aurais pas demandé. D'accord ? Et si vous vous souvenez, la leçon de la dernière fois, on a parlé des méchants. Vous vous souvenez ? Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont déjà écouté le cours, Dieu dit que ceux qui ne remboursent pas leurs dettes sont des méchants, vous vous souvenez ? Et j'aime bien, parce que le mot méchant, ben, il n'y a pas 36 significations, d'accord ? Donc ça veut dire que ceux qui ne remboursent pas leurs dettes sont considérés aux yeux de Dieu comme des voyants, comme des médiums, comme des spirites, comme des sorciers, comme ceux qui font les horoscopes. D'accord ? C'est intéressant de voir ce rapprochement-là. C'est des méchants. Alors souvent, le mot méchant, on peut dire « Ah, ça fait sourire », mais là, ça fait un peu moins sourire. D'accord ? Et j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais faire juste cette petite parenthèse pour bien prendre conscience aussi que les dettes ne sont pas à prendre à la légère. D'accord ? Que ceux qui ne remboursent pas sont appelés des méchants. Donc attention, engageons-nous à rembourser selon un plan, selon ce qu'on avait vu la fois dernière, et à honorer la parole de Dieu. La différence entre un pécheur et un méchant, la question 4, c'est que on est tous pécheurs, d'accord ? Mais les méchants, c'est les personnes qui rejettent Dieu activement. C'est vraiment intentionnel de rejeter Dieu, d'accord ? Et ça, c'est les méchants que Dieu désigne dans sa parole, et n'en soyons pas. Proverbe 12, verset 5, nous dit « Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les méchants ne songent qu'à tromper. » Les intentions de ces personnes-là sont tournées vers l'escroquerie, vers des choses qui sont trompées. Ça veut dire que je te présente quelque chose qui ne va peut-être pas être l'aboutissant, et qui va t'amener dans une situation conflictuelle non désirée, ou bien qui va t'amener dans la ruine, qui va te... Voilà. Donc attention, les personnes qui trompent sont appelées des méchants, les personnes qui sont méchantes trompent. D'accord ? La question numéro 6, j'avais répondu un petit peu tout à l'heure. Le fait de demander des conseils à une personne qui ne connaît pas Christ, ce n'est pas du tout un problème. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas compris comme ça. Donc, ce n'est pas du tout un problème, mais c'est peut-être pas le conseil qu'on va mettre dans la position numéro 1 pour dire « Ok, je vais le suivre ». Mais c'est très important de se dire « Ok, pourquoi je ne prendrais pas son avis ?» et parfois même l'avis de personnes non chrétiennes sur des choses de la vie courante, etc. Ils sont vraiment avisés, d'accord ? Les non chrétiens ne sont pas bêtes. On était un jour dans l'ignorance aussi, d'accord ? Et Dieu est venu nous éclairer et on apprend encore plein de choses, d'accord ? Et parfois, une personne non chrétienne peut nous amener un conseil qui est pertinent. Et ce qu'on disait tout à l'heure, si 5 personnes chrétiennes disent « Ok, à la voix de Dieu, j'ai eu ça », et la non chrétienne, c'est exactement ça aussi, bah, wow, c'est un conseil qu'on peut peut-être suivre et que fortement peut-être suivre. Mais ça veut dire qu'une personne non chrétienne a de bons conseils aussi, mais que notre façon de l'évaluer, de la mesurer, doit être un peu plus délicate et avertie, d'accord ? Super. Alors ce soir, justement, c'est OK pour vous ? On a fini le 6e jour et on passe à la suite, si c'est OK. Sur le net, ça va toujours ? Vous avez des questions ?
Oui.
Super. Ok, nickel. Alors ce soir, justement, on parle de conseils, de suggestions, de propositions, etc., d'être conduit dans la bonne voie, en fait. C'est ça qu'on désire tous. Et c'est pour ça qu'on demande des conseils, parce qu'on a envie de trouver la bonne voie et puis de vivre les bénédictions que Dieu a pour nous. Et on a vu donc que dans tous les cours précédents, que Dieu nous appelle à être des gérants fidèles de ses biens, d'accord ? Et on va donc voir ensemble l'application pratique de la semaine. Certains l'ont fait, d'autres peut-être pas. C'est pas du tout un problème. On va justement voir cette application en détail. Et cette application, c'est le budget, un des outils les plus importants d'un gérant. Et je vais vous le démontrer. Donc le budget, alors certains, justement, vous êtes au point sur ce sujet. Pour vous, un budget, c'est quelque chose qui vous paraît familier. Prenez des compléments ce soir. Ne partez pas sachant. Prenez des conseils, prenez des infos. Mais si ce n'est pas votre cas, on doit savoir. Et je dirais en tant que chrétien, en tant que gérant, pour le compte de l'Éternel, on doit savoir où va l'argent et combien il nous en reste pour pouvoir le dépenser avec sagesse, etc. Donc ça passe par un budget. C'est en tout cas l'outil qui permet d'avoir une bonne visibilité sur sur nos dépenses, sur nos ressources, et puis à court ou à long terme d'ailleurs. On va le voir ensemble. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une image, parce que je crois que c'est bon pour plusieurs de l'entendre. On va se placer dans le domaine musical. Dans le domaine musical, on fait juste une petite parenthèse, c'est pour vous mettre à l'aise avec l'idée de faire un budget. Dans le domaine musical, et j'ai pris un outil en fait que j'utilise tous les dimanches, mais vous vous en rendez pas compte pour ceux qui jouent pas de la musique ou qui sont pas avec moi. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
Ceux qui savent, ils n'ont pas le droit de le dire. D'accord ? Alors, c'est un métronome. D'accord ? C'est un métronome un peu évolué. C'est une grosse boîte avec plein de boutons. Et ce métronome-là, c'est un outil qui nous permet, en tant que batteur déjà, de jouer toujours dans le rythme. D'accord ? Il fait des tac, 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 régulier. Et ça, en jouant dessus, on peut être carré et jouer dans le rythme. Ça permet que la musique, elle ne ralentit pas, elle n'accélère pas, etc. On est toujours régulier. D'accord ? Cet outil-là, j'en avais horreur et j'en avais fait mon ennemi pendant des années. Et dès que j'ai appris la batterie, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé, c'était un ennemi. Et jusqu'à pas très longtemps, en fait. Ça fait presque 19 ans que je joue de la batterie et ça fait peut-être même pas 2 ou 3 ans que je suis réconcilié avec cet outil-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je pensais, déjà, j'arrivais pas à le suivre. J'arrivais pas à entendre, à me caler dessus, d'accord? J'arrivais pas à considérer que c'était lui qui avait autorité sur moi. OK? Et je préférais faire en fait à ma sauce. D'accord? Quand on joue en freestyle et se dire OK, je vais essayer d'être carré, super. Et j'ai vécu un jour une expérience où j'ai vraiment cru que j'étais carré. Et c'était en live à l'église de Mulhouse. Et bref, tout le monde à la fin, dans le débrief, m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette louange? C'était flottant à fond. Et ça m'a mis un coup direct au cœur. Alors que moi, en plus, j'avais prié, Seigneur, permets-moi que je sois carré, etc., sans le métronome et tout. Et voilà. Et en fait, j'avais pris une grosse claque. Mais donc, j'ai vu que j'étais limité au bout d'un moment. J'étais vraiment. Je savais qu'en travaillant avec cet outil, je pouvais aller plus loin. OK? Alors. Soit je devais accepter de prendre cet outil et de dire OK, je vais commencer à travailler avec, je vais arrêter de flotter rythmiquement, c'est pas beau, ça s'entend, etc. D'accord? Parce que finalement, j'influence tous les autres musiciens, d'accord, en tant que batteur. Ou soit je commence à travailler et puis je commence à m'améliorer et puis il y a quelque chose de meilleur qui sort de la musique, d'accord? Même si derrière vous l'entendez pas. Au final, il y a un résultat. Il y a un jour, un ami qui m'a donné un conseil et qui m'a dit juste, c'était excellent. Je me souviens, il s'appelait Thomas. Il m'a dit, Luc, ne considère plus le métronome comme un ennemi, mais comme simplement un outil, un adorateur qui est avec toi le dimanche matin, qui fait tic-tac, tic-tac-tac-tac, et qui va lui-même louer Dieu de cette façon-là. Lui, sa façon de louer Dieu, c'est de faire tac-tac de façon régulière et il ne faillit pas. Et voilà juste de cette façon-là et permet à cet outil-là de t'aider dans ta louange. Comme un pianiste va t'aider à wow, une super mélodie et toi, tu vas lui amener un rythme et vous êtes complémentaires. Ben, lui, il va être complémentaire avec toi et avec tout le groupe. Et instantanément, j'ai senti dans mon cœur, genre, j'ai aimé cette idée-là et je me suis dit wow. Alors ça j'ai trop envie de. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'a réconcilié. C'est comme si j'avais fait la paix avec cet outil-là. J'ai changé de point de vue, en fait. Je suis placé dans une autre direction. Ça peut être de la repentance, peut-être. Parce que le verbe repentir, ça veut dire changer de direction, la traduction. Je viens de penser à ça. Et j'ai travaillé. Là où je veux en venir, c'est que j'ai travaillé, j'ai persévéré, je me suis dit, OK, je vais le faire. Ah, j'y arrivais pas, maintenant je vais essayer. Et en fait, j'ai réussi. J'ai réussi à jouer dessus, j'ai commencé à prendre plaisir. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, si on joue à la louange sans clic, ça me dérange. Et tout le monde veut jouer avec le clic, parce qu'après, je l'ai suggéré, pardon, aux autres. Et maintenant, tout le monde veut ça. Et s'il n'y a pas le clic, on est déstabilisé, on dit, oh, mais il n'y a pas de clic ce matin et tout, envoie-nous du clic, Sono allume le. Donc, ça a carrément eu un effet positif. Okay? Maintenant, on va se placer dans le domaine financier selon Dieu. Okay? Alors, peut-être que ça fait des années que tu détestes l'idée de calculer, de compter. Okay? Peut-être que ce n'est pas ton fort. De faire des listes, d'écrire, de prendre du temps, de t'arrêter et de faire un compte-rendu sur tes dépenses. Et peut-être que tu préfères te voiler un peu la face, de dire, ouais, c'est plus simple de pas faire ça, et puis ça tourne. Et peut-être que tu as remarqué aussi justement que ça tourne pas très rond financièrement, que tu es toujours obligé de régler des problèmes ou de pas profiter finalement des ressources. De ton salaire, des choses que tu reçois financièrement. Et finalement, tu sais peut-être pas où c'est que va ton argent, mais ça ne te pose pas trop de problèmes. Mettez pas en paix avec cette idée-là. Ou alors, tu n'as juste pas besoin de compter ton argent parce que ça roule financièrement pour toi, que tu n'as pas, j'ai écrit justement dans mes notes, aucun problème financier. C'est ce que je vous souhaite. Mais le problème, tu sais au fond de ton cœur que le fait de ne pas savoir où va ton argent, ça ne plaît pas à Dieu. Parce qu'on va le voir, Dieu nous donne des ressources et il veut qu'on soit gérant fidèle. Fidèle, ça veut dire qu'il peut donner, rendre des comptes. Et quand on rend des comptes, on est précis. D'accord? C'est ce que j'aimerais en tant que chef d'entreprise de mes employés. J'aimerais que mes employés me donnent des choses précises. Ouais, chef, tout va bien. Ça ne me suffit pas. Chef, ce chantier, il tourne super bien. Par contre, l'autre, il tourne un peu moins bien, mais on arrive à s'en sortir. Voilà. Vous voyez, il y a une différence quand on amène de la précision, et je crois que c'est ce que Dieu veut. Donc, soit ça continue de flotter financièrement dans ta vie, comme moi, ça flottait musicalement sans l'aide du métronome, ou soit on voit comment on fait un budget et on se dit le passé c'est du passé, on recommence quelque chose de nouveau. Et j'aimerais vous donner justement un conseil. La repentance, oh, attention, comme moi je l'ai eu avec le métronome, changez de point de vue. Changez de point de vue, dirigez votre regard en pensant que le budget, en fait, ça va devenir votre meilleur allié pour adorer Dieu avec vos finances. Un outil, mais wow, trop bien, pour que Dieu soit honoré. Et en fait, ça va le glorifier en disant, Seigneur, cet outil-là, je l'utilise et voici les résultats. Tu as besoin de résultats, Seigneur? Quand tu veux, tu m'en demandes, je te les donne. Et finalement, votre louange à Dieu. Pourquoi la louange? C'est pas seulement dimanche matin, c'est dans notre façon de vivre, dans tout ce qu'on fait. Rendez gloire à Dieu dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Eh bien, je crois que oui, en faisant un budget financièrement dans le domaine économique, dans nos vies, dans notre foyer, dans notre couple, dans notre vie perso, oui, financièrement, le budget va être un outil qui va vraiment nous amener à donner une bonne louange à Dieu. S'il est bien tenu, s'il est fait d'une façon agréable à Dieu, on va le voir, et ça va honorer Dieu, ça va glorifier Dieu. Vous êtes d'accord? En fait, j'ai envie de vous challenger à essayer au moins, parce que quand vous allez voir les résultats, vous allez savoir comment faire. Finalement, peut-être que des faux raisonnements vont être brisés parce que un budget, on se dit, wow, c'est restrictif, etc. On a des connotations péjoratives qui viennent dans nos têtes. Peut-être, c'est votre cas, peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez voir que le fruit et l'effet que ça va porter dans votre vie. Et je vous le dis parce que moi, j'en fais l'expérience avec Mathilde. Plusieurs, vous en avez fait aussi l'expérience. Eh bien, ça amène des bonnes choses dans nos vies. Et je vais vous montrer ce que ça amène aussi. Ce que ça va libérer dans nos vies. Donc si vous êtes d'accord, on va voir ensemble comment on joue avec un budget, comment on joue du budget, je ne sais pas comment on peut dire. Parce qu'il n'y a pas que des calculs en fait, on va voir qu'il y a des principes aussi. Alors pourquoi établir un budget? La raison principale que ça va, la raison principale de pourquoi faire un budget, c'est que ça va nous permettre de fermer le cercle. Alors, ceux qui sont sur le net, non, pardon, c'était l'inverse. Ceux qui sont sur le net, j'ai ici un tableau d'affichage où vous allez entendre, mais vous allez peut-être pas voir. Vous allez entendre ce que je dis. Donc, la raison principale de faire un budget, je le répète, c'est de fermer le cercle. Mais j'aimerais d'abord qu'on prenne 2 Corinthiens 9, verset 10. Vous vous souvenez, c'était notre verset clé. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, nous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Donc, on voit que, on a vu dans les leçons précédentes, en tant que gérant fidèle, le premier emploi de l'argent dans notre vie, ça devrait être la dîme. La dîme, c'est quoi? C'est la semence pour le semeur. C'est ce que dit le verset 2 Corinthiens, verset 9, chapitre 9, verset 10. Ensuite, la suite du verset nous dit, trois petits points, lui donne le pain dont il se nourrit. Donc cet aspect-là, en fait, traite de nos dépenses, de l'argent que nous dépensons pour notre consommation. Okay? Et parfois, on pourrait penser, j'ai donné ma dîme, je fais ce que je veux des 90% restants, Dieu s'intéresse qu'aux premiers 10%. Et je crois que non. Que Dieu porte vraiment un grand intérêt à la façon dont nous dépensons l'argent. Et c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où on a vraiment, on n'a plus juste la satisfaction des besoins, mais on a réussi à créer du besoin. C'est-à-dire que certaines entreprises, certaines enseignes, certains produits sont là juste pour nous, pour créer un besoin qui finalement n'était pas dans nos vies. Et si on a, si on n'a pas traité certaines choses dans nos vies, on peut être tenté et puis rentrer dans des dettes, rentrer dans des choses qui vont nous mettre sous un esclavage que Dieu ne désire pas. Donc souvenez-vous, l'argent doit toujours être notre esclave et pas l'inverse. On doit le maîtriser, à contrario d'être maîtrisé par lui, d'accord? C'est ce qu'on avait vu dans les leçons précédentes. L'argent doit être notre serviteur. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent. Certaines personnes dans peut-être des églises, et j'en entendais des témoignages, pensent que oui, c'est un problème, que vaut mieux s'en écarter qu'en avoir. Ça nous évite des problèmes. Mais moi, je crois qu'en tant que chrétien, on est vraiment appelé à, oui, avoir des ressources, de l'argent, mais par contre, à bien le gérer. Et on est ces gérants fidèles, on est en train de les devenir de plus en plus. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est que nous devons arriver à répondre à la question, c'est ce que j'ai noté sur mon tableau, combien me faut-il pour avoir assez? Peu de personnes ont répondu à cette question, et moi j'en étais, j'en faisais partie. Pourquoi on va répondre à cette question alors que on sait bien que c'est embêtant d'y répondre. Et je m'associe à la pensée de certains auteurs qui disent que oui, l'esprit de Mammon, celui à qui on fait vraiment opposition dans cette formation et puis à qui on a envie dans nos vies de montrer que Dieu est plus grand. C'est qu'il ne veut pas qu'on réponde à cette question. Je vais juste boire un petit coup. Et on va voir pourquoi. Pourquoi il ne veut pas qu'on réponde à cette question. C'est ça qui est intéressant. C'est OK. Pourquoi il veut donc... C'est dangereux de répondre à cette question pour Mammon. Si un chrétien répond à cette question, et s'il met en pratique les principes qui en découlent, eh bien, ça fait des ravages dans son camp. Et on va voir ça ensemble. Donc, le budget, ça va nous aider à répondre à cette question. Combien me faut-il pour avoir assez? C'est important de... Alors, vous mettrez le nom que vous voulez, mais budget, voilà, c'est le terme qu'on va employer ici. Mais vous pouvez mettre rapport financier, rapport perso-financier, etc. C'est un outil. Prenez l'outil que vous voulez, mais répondez un jour à cette question. Et c'est ce qui me permet d'aller vers la notion de cercle. Avant, vous vous souvenez, je vous disais pourquoi on fait un budget. Ça va nous permettre de fermer le cercle. Ah, qu'est-ce que c'est cette notion? Le cercle, en fait, c'est simplement un cercle, un trait que vous tracez sur un papier. Et... je l'ai matérialisé ici en vert ou ici en bleu. Il y a deux cercles qui existent, le cercle ouvert ou le cercle fermé. Dans ces cercles-là, vous y mettez les obligations, vos obligations, que ça peut être la taxe d'habitation, le loyer, tout ce que vous devez payer et que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous y mettez vos besoins, les nécessités, d'accord? Et vous y mettez les désirs. Ça, c'est la notion de cercle, c'est ce à quoi elle fait référence, d'accord? Donc, en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a deux types de cercles, et on va voir dans les deux cas, qu'est-ce qui va se passer, ou dans quel cas on se positionne, et qu'est-ce qui va nous arriver. Dans le cas numéro 1, où le cercle est ouvert, donc le cercle à gauche sur mon tableau, en sachant pas combien il nous faut pour avoir assez. C'est ça ce que ça veut dire, vivre en cercle ouvert. Ça veut dire, je ne sais pas combien il me faut pour avoir assez chaque mois ou bien chaque année. Toute augmentation de revenus, toutes ressources financières qui vont arriver dans votre vie vont servir à augmenter la taille de votre cercle. Là, il est petit. Et puis d'un coup, il va devenir plus grand. Ok, ça veut dire que si je reçois un chèque dans ma boîte aux lettres, peut-être que je peux m'acheter une meilleure voiture, alors que je n'avais pas besoin. Ou alors, les vacances de l'année prochaine, on avait prévu d'aller dans les Vosges, mais on va peut-être aller en Corse, c'est un petit peu mieux. On va taper dans du haut standing, etc. On va élargir, plus d'habits, plus, d'accord ? On va élargir notre cercle. Attention, tout ce que je dis là, Dieu n'est pas contre des vacances, Dieu n'est pas contre une nouvelle voiture, Dieu n'est pas contre des nouveaux habits, etc. On va le voir dans quelle mesure, ok ? Donc ça, c'est le cas numéro 1 où on vit en cercle ouvert. Le deuxième cas, le cercle fermé, si je sais combien j'ai besoin pour avoir assez, alors les désirs, il y a les vacances dedans. Les nécessités, il y a les habits dedans. Les obligations, il y a le loyer, il y a mon habitation, il y a toutes ces choses-là. Donc Dieu est complet et il veut notre confort. C'est un bon papa, c'est un papa qui veut notre bien, ok ? Donc, dans ce cas-là, si j'ai besoin de temps et temps pour avoir assez, et je sais le définir avec des chiffres très précisément, et qu'il y a une grosse somme d'argent qui nous est confiée, quelqu'un qui Dieu m'a mis à cœur de te donner ce chèque-là, vous trouvez par terre de l'argent, j'en sais rien, toutes les manières créatives que Dieu a pour nous bénir. Qu'est-ce qui va se passer quand notre cercle est fermé, qu'on a dit « Ok, plus rien ne va rentrer dans ce cercle. Pour cette année, on a prévu les vacances, on ne bougera pas le budget des vacances. Pourquoi je ne changerai pas de maison ?» Non, je ne changerai pas de maison s'il y a 1 million qui tombe dans ma boîte aux lettres. Ce n'est pas pour acheter la dernière villa à Saint-Tropez. Ok, qu'est-ce qui va se passer quand on a fait ça ? On va se dire « Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent ?» Je crois que tu as une intention particulière et j'en ai entendu une fois un témoignage de quelqu'un qui disait « J'étais dans l'avion pour revenir d'une conférence et Dieu m'a dit « Tu verras à l'arrivée, il y a un chèque dans ta boîte aux lettres. » Il dit « Wow !» Par contre, ce chèque-là, il lui a direct donné je sais que tu vas l'utiliser pour moi, donc on va travailler ensemble. Mais il lui a pas donné précisément le... Il est arrivé chez lui et sa femme lui a dit « Chérie, tu devineras jamais ce qu'il y a dans la boîte aux lettres et tout. » Il dit « Si, c'est un chèque. » Oh, comment tu sais ? Enfin bref. Et en fait, c'était un gros montant. Il l'a pas dit dans le témoignage. Et il a dit « Seigneur, maintenant je m'attends à ce que tu me donnes les directives. » Et deux semaines après, il y a une personne qui était sous les dettes. Il dit « J'en peux plus, on est en banqueroute, ça va plus dans mon couple et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous aider ? Et ça va... Il nous faut des conseils, il nous faut de l'aide, etc. » Il a dit « Seigneur, là, maintenant, on y va. » Il a pris l'argent, il a épongé toutes les dettes, il leur a dit « À condition que vous engagez à suivre avec moi ma formation et je vais vous aider à apprendre à gérer l'argent comme il se faut et je vais vous aider à devenir des instruments puissants dans les mains de Dieu, etc. » Mais ils ont dit oui. Et puis ils ont galéré pendant la formation parce que Dieu, il dit « Ok, dis-leur ça. Cassez la carte de crédit, on la casse maintenant. Pourquoi vous étiez des dépensiers trop... Voilà. » Il était vraiment un instrument de bénédiction, en fait, dans cette famille-là. Et il a investi, il a semé. Et c'est ça, on va vivre une surabondance. Dieu veut que nous vivions la surabondance. Si on ne sait pas combien on a besoin pour avoir assez, si on n'a pas notre cadre chaque mois, chaque année, etc., il va se passer... La surabondance peut arriver, on s'en rend même pas compte finalement, d'accord ? On est béni en surabondance et finalement c'est pour s'engraisser. On voit le terme s'engraisser, c'est assez péjoratif, mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Il veut qu'on soit des outils. Il veut qu'à un moment on se contente et ça va être un des chapitres de la formation, qu'on soit dans le contentement et qu'on arrive à être un instrument pour augmenter les fruits de sa justice. On va le voir. Et je crois que Dieu n'a pas juste prévu qu'on soit béni pour payer notre loyer, l'essence de la voiture, les courses, etc. Juste ça et qu'on reste dans le juste assez, en fait. Parce que je ne crois pas que Dieu soit le Dieu du juste assez, il est Dieu de la surabondance. Je crois qu'il veut que ses enfants prospèrent et que vraiment ils aient tout ce dont ils ont besoin, d'accord ? Qu'ils ont de quoi satisfaire à leurs désirs, d'accord ? Toutes les catégories... et qu'ils ont encore en abondance pour être un instrument de bénédiction. Et c'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre et de croire que oui, Dieu veut nous confier des ressources financières. Et je crois que certains qui ont compris ça vont recevoir dans les mains beaucoup d'argent. Parce qu'on aura tout construit selon la parole de Dieu. L'esprit de maman, aucun accès. Les principes de Dieu, être béni et bénir en retour les autres. Ouvrir, s'ouvrir aux autres. Et commencer à être un instrument pour changer la vie des gens. Et ça passe aussi par ça. Par le fait d'utiliser notre argent. Parfois, j'ai entendu des personnes qui disaient « Moi, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ça me suffit le peu que j'en ai. » Ou bien les pauvres dans le monde, pourquoi Dieu ne leur donne pas de l'argent? Pourquoi ils ne se préoccupent pas de ces pauvres-là et plus dans le monde occidental ou bien dans les pays développés, tout ça. Ouais, on a tout ce qu'il nous faut, etc. Et toi, en plus, tu pries pour que Dieu te donne encore plus d'argent et tout. Et ça, pour moi, je crois que c'est de l'égoïsme. Parce que, oui, si on est dans cette attitude de dire « Ouais, Seigneur, moi, j'ai juste ce qu'il me faut. » Tu es en train de dire « Seigneur, m'utilise pas pour être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. » Acheter un panier de courses, bah, ça passe par de l'argent. Acheter un ticket de bus ou bien une nuit d'hôtel à quelqu'un qui a froid ou une veste, etc., ça passe par de l'argent, des choses comme ça. Dieu n'est surtout pas contre ça. Et il ne veut pas qu'on manque de quoi que ce soit. Donc, ça passe par la surabondance, ça passe par le plus, par on y va, on a le droit de demander plus. Parce qu'on a été équipé dans notre cœur, on est juste, on est bien placé. Et oui, les pauvres qui sont dans les pays à côté, ils attendent que toi. Ils nous attendent. Tous ces chrétiens qui se lèvent et qui ont des ressources et qui vont déboîter, qui vont mettre des projets en place pour aller les secourir, pour construire des écoles, pour envoyer des missionnaires, pour envoyer des chrétiens qui ont cet appel-là, etc. Plein de choses. Je crois que Dieu va se servir des personnes comme ça, ressources, sur qui il peut compter, et il va nous envoyer les nutriments financiers, si je peux dire. Ok ? Donc, arrêtons d'être égoïste. Je ne dis pas qu'on l'est tous, mais moi, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Et j'ai à un moment pris conscience, non, cette pensée-là, Dieu, il aime tout le monde, d'accord ? Mais à nous de prendre vraiment nos responsabilités. Il veut qu'on soit la tête, qu'on ne soit pas à la queue, on l'a entendu, mais où sont ces chrétiens ? J'aime bien un petit titiller comme ça, d'accord ? Le prenez pas mal. Mais où sont ces chrétiens qui, tous les dimanches, viennent me dire, waouh ! J'ai reçu 10 000 euros, ouh là là, j'ai dans ma boîte aux lettres, ça brûle dans ma boîte aux lettres. J'aime bien le truc de la boîte aux lettres parce que j'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Mais j'ai aussi entendu des témoignages où les comptes bancaires ont été crédités, ils savent pas d'où ça venait. Il y a quelqu'un qui s'est présenté au comptoir et il a déposé ça sur tel et tel compte. Wow. Vous savez, j'entends des témoignages comme ça, donc je crois que c'est possible. Et s'il l'a fait pour une personne, il peut le faire pour tous ceux qui comptent sur Dieu. Et 2 Corinthiens 9, verset 10, ce verset sur lequel on se base, nous dit que oui, il veut qu'on augmente les fruits de notre justice. On va le voir dans des leçons suivantes, ok ? Mais il veut qu'on augmente. Il y a quelque chose qui va se passer et la justice, on va l'étudier, d'accord ? Mais pas ce soir. Moi, j'ai trop envie d'en faire partie et j'espère que vous êtes aussi motivé. J'espère que ça vous motive d'entendre des choses comme ça. Bon, il fait un petit peu frais, mais voilà. Ok. Alors, le fait de projeter justement ces trois catégories, obligation, nécessité, désir, sur l'année ou sur le mois, ça va nous permettre justement d'établir le budget. C'est pour ça, là ce soir on va parler budget, je vais essayer d'être très pratique. Il nous reste 20 minutes, une demi-heure, parce qu'on a commencé à 10, ok. Je vais essayer d'être assez rapide, mais en même temps assez pratique, assez précis. Donc, imaginons que vous fassiez ça sur le mois, ça peut être précis, Mais quand on le fait sur une année, ça peut être d'autant plus précis. Si vous dépensez 6 euros, par exemple, par jour pour manger à midi, si vous le faites à 6 euros, ah, c'est pas grand-chose, 6 euros. Mais si vous faites 6 euros par, je ne sais pas combien, 365, ça fait 1500 euros par année. Oh, avec 1500 euros, qu'est-ce que je peux faire et tout? Ça ne veut pas dire qu'il faut diminuer votre repas, votre budget repas. Mais en fait, simplement, dans votre raisonnement, peut-être que ça peut vous éclairer de le faire, de projeter le cercle sur une année. Okay ? En passant dans la pratique, j'aimerais justement illustrer, alors Jean, si tu peux afficher, on va se baser sur mon tableau. Alors ça, c'est un tableau que je me suis fait sur Excel. Je vais vous le présenter en détail. Sur Internet, je vous l'ai envoyé par email normalement. Vous avez le fichier dans votre mail et c'est à ce moment-là que vous pouvez l'ouvrir si vous le voulez pour nous suivre. Donc je vais faire référence à ce tableau de temps en temps. Alors ce budget, cette façon de faire, c'est pas la seule, d'accord ? Si vous voulez, je peux vous donner plein de références avec des applications mobiles ou des applications numériques, etc. J'ai eu des conseils sur ça et je peux vous transmettre des outils qui ont déjà été établis, etc. Moi, j'ai préféré faire le mien pour bien comprendre où je vais, pour bien comprendre ce que je fais et pour me lancer en tout cas dedans. Donc, je vais vous montrer en détail comment je fonctionne. Alors, je vois tout de suite la question que vous dites. Quoi, lui qui gagne que 1000 euros par mois? Ah, si vous avez dit ça, c'est génial. Mais si vous avez dit lui qui gagne 1000 euros par mois, c'est beaucoup ça. Ça, je suis pas d'accord, ok? Mais c'est pas les vrais chiffres, ok? C'est pas les vrais chiffres, c'est simplement pour vous donner un aperçu. Sachant que la case est vraiment trop petite pour noter mon salaire, j'ai préféré. Voilà, c'était pour vous détendre. Allez, c'est parti. La première étape pour l'établissement du cercle, on est bien dans cette perspective-là, c'est de noter toutes les dépenses et tous vos revenus dans un tableau papier ou informatique, peu importe. Cette étape-là, vous l'avez faite normalement au tout début de la formation, c'était une des applications à faire, d'accord ? Donc c'était important de passer par là, on en voit les effets et les bénéfices maintenant, d'accord ? Donc l'idée, c'est de lister toutes vos entrées et vos sorties pour les mettre par catégorie. Est-ce que tu peux descendre un peu le tableau ? Donc, sur mon fichier Excel, vous allez voir plusieurs couleurs, trois couleurs. Une couleur un peu plus rouge, rosée, une couleur verte et, tu peux descendre encore un peu plus, une couleur bleue. Okay ? Le fait de faire mes entrées, mes sorties, c'est justement de pouvoir catégoriser tout ce que je sors comme argent, tout ce que je rentre. Donc, vous l'avez compris, c'est pas possible de le faire sur un mois. Enfin, c'est pas possible. C'est pas suffisamment précis de le faire sur un mois. Donc, le bouquin vous encourage à le faire sur plusieurs mois, sur une année. Au bout d'un moment, vous avez un cycle, vous avez un peu fait le tour de vos dépenses et le tour de vos revenus, on va dire. D'accord ? De où ça vient et de où ça va. C'est ça le but. Et ensuite, c'est de prendre toutes ces infos et de les catégoriser. Donc, vous avez vu, dans mon tableau, j'ai, si tu peux remonter, j'ai, non pas tout en haut, juste au niveau de cette partie, voilà. J'ai l'électricité, le loyer, l'entretien voiture, la mutuelle, les frais bancaires, etc., qui sont catégorisés dans mes obligations. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes obligations que moi, parce que, ok, vous avez décidé ça autrement, et je vous encourage, si vous faites un cercle fermé, à travailler en couple, si vous êtes en couple, ou avec un ami, ça peut vous aider et à recevoir de très bons conseils. Donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, mes obligations pour moi, c'est coûte que coûte, je payerai ça avant mes besoins, ou avant mes désirs. Ça, c'est la question que je me posais pour pouvoir catégoriser en fait mes obligations. Parce que parfois, c'est pas évident de se dire, ok, les offrandes du mois. Et vous avez vu, j'ai mis dîmes, offrandes, remboursement, taxes d'habitation. Il y a un certain ordre. À partir d'un moment, il n'y a plus trop d'ordre. Mais je vous encourage dans votre budget à mettre la dîme en premier, les offrandes en premier et rembourser vos dettes en premier. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est ce qui appartient à Dieu. On a vu, c'est ce qui établit nos finances d'un point de vue divin. Donc, mettons-le en premier. Enfin, c'est un conseil, un bon conseil que je vous donne. Les offrandes du mois, on a décidé avec Mathilde que ce soit une obligation. Si on n'a pas assez d'argent pour les vacances qui sont dans les désirs, si on n'a pas assez d'argent pour les habits qui sont dans les nécessités, on paiera quand même les offrandes. Coûte que coûte, on paiera cette offrande. D'accord ? Ça, c'était la question qu'on s'est posée. Pour nous, c'est suffisamment important pour que ça passe en premier. Voilà. Les nécessités, la cantine, les courses, les frais nounou, cadeaux de mariage, vêtements, etc. Je l'ai classifié dans les nécessités. Et là, c'est pareil. Vous pouvez avoir plusieurs catégories. Alors, note ta question, je te coupe. Note la question, c'est juste pour qu'on puisse avancer. Mais on y répondra dès que possible. Le fait donc de catégoriser va peut-être vous dire, OK, dans cette catégorie, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte qui sont des obligations et des désirs. Par exemple, dans divers, moi j'ai un onglet divers. Divers, c'est tout ce que j'arrive pas trop à classer, je mets tout dedans, etc. Et au bout d'un moment, j'ai éclaté mon divers, j'ai disséqué ça et j'avais mis en fait mes frais d'entretien voiture. J'avais mis entretien voiture, c'est devenu une obligation finalement. Vous voyez, divers, c'est dans la nécessité, obligation, entretien voiture. Parce que du coup, c'est important, voilà, on ne peut pas faire autrement. C'était notre choix en tout cas, etc. Donc ça veut dire que dans vos catégories, est-ce que c'est clair pour vous? Si je vais trop vite, vous me le dites aussi. Les catégories peuvent être scindées dans plusieurs familles. Les trois familles, obligation, nécessité, désir. Vos catégories, vous allez peut-être mettre d'autres termes que moi j'ai mis, mais si tous les mois vous avez une dépense qui se répète, etc., vous allez former une catégorie. Vous êtes d'accord? Alors, vas-y, deux questions. Valentin d'abord.
Donc, avant, tu parlais de l'offrande, que tu la mettais quand même en dessous de la dîme.
Ouais.
Moi, j'ai une question, c'est comment tu la planifies, l'offrande? Est-ce que tu... Maintenant, vu qu'on va faire notre premier budget, est-ce que l'offrande est calculée au début ou en fonction du restant du cercle? Et de se dire, OK, ça, maintenant, on sait ce qui nous reste, alors on peut donner ça, et ensuite, on s'y fixe.
Justement, non. Moi, ce n'est pas dans mon restant, c'est dans ce que j'ai au départ, je paierai une offrande. J'ai mes obligations. Alors, c'est ce qu'on va voir après. Aussi en fonction de vos revenus. Là, on n'est pas en train de regarder par rapport aux revenus, on est en train de définir combien on a besoin pour avoir assez. D'accord ? Donc en fait, avec Mathilde, on s'est dit, alors c'est pas le bon chiffre, mais on s'est dit 100 000 euros tous les mois dans l'offrande, d'accord ? Bon, tout le monde dort, ok. 100 euros tous les mois, ok, ça on va le donner, on a envie de faire ça. Là, on est en train d'établir ce qu'on a comme obligation, ce qu'on a envie d'associer dans les obligations. On va voir après si c'est possible. C'est là où on va revenir. Question, Patricia?
Oui, c'est la différence entre les offrandes et les dons. Par exemple, quand tu parraines un enfant, tu les mets dans les dons là, et les offrandes, c'est pour l'église ou...
Tu peux descendre un petit peu. Avec Mathilde, on fait des dons. Ils sont là.
Ouais.
On a décidé que ce soit des nécessités. Donc, si on n'a pas assez d'argent pour partir en vacances et qu'on a suffisamment d'argent pour répondre à tous nos besoins, eh ben, les dons, par exemple, si on parraine des enfants, on va le faire. D'accord ? Par contre, si on n'a pas assez pour répondre à tous nos besoins, on ne va pas le faire, mais on va répondre à nos obligations. D'accord ? C'est toujours, on répond d'abord aux obligations, ensuite aux nécessités, aux besoins et ensuite aux désirs. Et en fait, c'est ça la catégorie. La catégorie dons aux enfants parrainés, on ne paiera pas coûte que coûte. Coûte que coûte, on a décidé avec Mathilde que non, si on n'a pas suffisamment d'argent déjà pour l'assurance, pour l'entretien de la chaudière, pour le gaz, etc., alors on ne fera pas de dons au sel. D'accord ? et on devra faire une démarche, on devra dire ok, on va voir comment on va faire. Ça marche? Ok, la deuxième étape, alors vous pouvez noter dans un petit coin, il y a un livre qui s'appelle God's Manager, et c'est un livre apparemment qui a été fait donc par un chrétien et qui nous permet de tenir nos comptes et noter toutes les dépenses, etc. Donc c'est Dieu, apostrophe S, manager. Et je ne sais pas qui c'est l'auteur, etc. Il faut taper sur Internet, vous allez trouver ça assez rapidement. Ok. La deuxième étape, c'est de déterminer pour chaque catégorie, donc c'est ce que j'ai un petit peu dit d'avance, si elle rentre dans le budget, dans quelle catégorie du budget elle rentre, obligation, nécessité ou désir. Ça, c'était la deuxième étape. Et c'est là où on va se dire avec notre conjoint, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou si on est tout seul, on peut le faire seul. Parfois, c'est bien d'avoir un ami qui nous aide, qui a un droit de regard, pas forcément sur les chiffres. Aussi sur les chiffres, ça peut être bien. Un ami de confiance. Là où je disais tout à l'heure que le monde d'hiver, il y avait les frais de santé. Souvent, on mettait ça, j'achetais des médicaments, etc. Et je mettais aussi les vêtements qu'on achetait, par exemple, dedans. Et là, je les scindais, j'ai mis vêtements et j'ai mis santé. Et vous avez vu, mon vêtement est dans le nécessité, dans les besoins. Et maintenant, la santé, pour moi, c'est quelque chose, ça passe pas en besoin, c'est en obligation, d'accord ? Alors qu'avant, c'était un petit peu mélangé. Donc, ça m'a fait en fait du tri et ça m'a permis de clarifier tout ça. Troisième étape, c'est bon pour vous la deuxième ? Donc, à vous de définir qu'est-ce qui rentre dans chaque catégorie. Donc là, on est toujours à l'étape de lister, d'accord ? On se projette pas. Maintenant, on se projette. Alors, on a parlé de la catégorie obligation, de la partie besoin, mais la partie désir. En fait, comment on va faire un cercle qui est fermé, qui est suffisamment précis, c'est qu'on va se dire, ok, alors c'est pour ça qu'il est bon de faire un cercle, de revoir son cercle chaque année. Ou alors, à chaque moment qu'il y a un gros changement dans nos vies, d'accord ? On change de travail, on change de région, il y a un enfant qui arrive, etc. Donc c'est important de revoir ça. Dieu, attention, n'est surtout pas contre que notre cercle évolue. C'est pas parce que aujourd'hui on est quoi, le 22, vous avez fait votre cercle. Seigneur, j'ai besoin de 2310,56 euros pour vivre chaque mois ou chaque année. Vous multipliez par 12. Et c'est comme ça toute ma vie. Ah oh purée, du coup, j'ai pas le droit d'avoir une évolution de salaire ou machin. Ou alors je dois tout donner, oh là là, tout ce qui va venir en plus. Non. Dieu, avec Dieu, on est sur une pente montante, pas sur une pente descendante normalement. Ok ? Avec Dieu, il y a de l'évolution, il y a du changement. D'accord ? Mais dans un certain cadre. Donc, la catégorie désir, comment on va l'établir ? Alors, c'est là où c'est un peu difficile. On va se projeter. Et le mieux, c'est de se projeter sur une année. Vous pouvez vous projeter un petit peu plus longtemps, mais du coup, ça va être un peu moins palpable, d'accord ? Quand moi, qui ai 29 ans, je me projette pour ma retraite, c'est loin, d'accord ? Donc du coup, je l'ai pas considéré en fait dans mon calcul. Et je me dis, Seigneur, ok, je reste sur une année. Donc, avec Mathilde, on a étudié notre année en partant maintenant 2018, on va dire, parce que l'année 2017 est passée. On va dire, l'année 2018, on fait un point, ok ? Cette année, qu'est-ce que tu aimerais vivre, Mathilde ? Si maintenant tu avais à fond, si tu avais de l'argent à fond, qu'est-ce que tu aimerais vivre ? Alors nous, on a fait une liste. Tu peux mettre la deuxième. On le trouve sur le deuxième onglet. Deuxième onglet, la deuxième page. On a commencé à noter dans un ordre de priorité nos désirs. On a mis Éline et Carlos. Pour ceux qui savent, notre futur bébé, on l'appelle Carlos. C'est juste pour, c'est pas le vrai nom, ok? Que vous sachiez, j'ai pas fait une bourde, ok? Donc, on a mis, ok, les besoins qu'on en aurait. On dit, ok, si on a, on pourrait mettre, on pourrait acheter un siège auto, on pourrait acheter une écharpe, on pourrait acheter une commode, etc. On pourrait faire des choses. On a mis en priorité numéro 2, tu peux descendre, la conférence au Portugal. on aimerait trop aller à cette conférence, mais déjà, on ne savait pas qu'il y avait cette conférence, on vient de l'apprendre. Donc, Seigneur, ok, on a commencé à budgétiser, on a regardé le vol, le transport, et on essaie d'être très, très précis. Pourquoi? Comme ça, on peut prier, Seigneur, il nous faut exactement 1135,92 €. Je fais un appel pour les chrétiens qui seront généreux. Amen. Et non, je plaisante. Et je plaisante vraiment, d'accord? Et enfin, je plaisante pas tout à fait. Bref. Voilà. Mais plus vous êtes précis, si Dieu répond précis, vous savez que c'est Dieu et vous glorifiez Dieu. Je le dirai toujours. Si vous commandez une paire de chaussures roses et que vous l'avez devant votre porte, vous savez que Dieu vous a répondu. Ok? Plus vous êtes précis. C'est très, très important. Ensuite, on a mis « Ils sont conférences Londres », etc., « Les vacances en août », etc. On n'a pas fini notre liste, mais on se projette et on dit « Seigneur, voilà, ça, c'est nos intentions. Refaire la terrasse, on aimerait acheter une piscine, on aimerait partir avec nos enfants à Repas Park 7 fois par mois. On aimerait, si ça, ça, c'est notre désir, vous avez le droit. » Vous avez le droit, je connais quelqu'un qui a un abonnement à Europa Park à l'année, qui est dans l'église, et puis c'est l'attraction avec ses enfants. Ils vont pas dans plein de... ils vont à Europa Park. Il y a tout là-bas, donc c'est nickel. Voilà. Donc ça, on rigole pas, s'il vous plaît. Voilà. Ok, donc vous avez le droit d'avoir des désirs, s'il vous plaît. On a le droit d'avoir des désirs. Dieu n'est surtout pas contre. Peut-être, par contre, qu'il va nous dire ce désir-là, mets-le un petit peu de côté. Garde-le au chaud, mais mets-le de côté pour cette année. C'est pas pour cette année, d'accord? Etc. Et c'est là où on va justement, on va voir, on va prier, on va voir, Seigneur, qu'est-ce que tu permets cette année d'intégrer dans mon cercle? Et j'aime trop cette formation parce que du coup, on n'apprend pas seulement des principes, des calculs, etc. Et là, ça va nous pousser à venir près du Père et dire « Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu m'inspires ?» Et je trouve que c'est pas une étape évidente, facile, mais on va commencer à lui demander un avis et il va nous dire d'une façon ou d'une autre. Je crois, il va nous dire « Voilà, cette année, vas-y. » Cette année, tu peux repasser sur la feuille d'avant. T'as mis dans ton budget... Si tu peux monter, t'as mis, où c'est que je vais aller ? Les courses, t'as mis 100 €, mais un peu plus. Là, t'as mis quoi ? T'as mis vêtements ? Oh, t'as mis un peu beaucoup, mais un peu moins. Là, c'est nickel. Voilà. Et il va nous communiquer, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Et en fait, quand on va avoir l'aval de Dieu, on va pouvoir préparer ce cercle d'une façon... solide, d'accord ? On va avoir un chiffre à la fin qui va être validé par Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu valide, on doit chercher quelle est sa volonté. Est-ce que, Seigneur, ça nous garde connectés à lui ? Alors, je dis ça, je me parle totalement aussi, ne vous inquiétez pas. Et je le répète, si vous êtes marié, priez en couple. Si vous êtes seul, un ami de confiance, c'est une excellente aide. Et en fait, attention, oui, si c'est la première fois que vous établissez votre cercle, si c'est la première fois que vous faites cette démarche-là, oui, il va y avoir des combats. Ah, punaise, toute ma jeunesse, j'ai manqué et tout. Maintenant, il faut que je fasse encore des calculs. Et vous allez avoir des choses comme ça qui vont remonter, ça va être difficile. Priez, relâchez, ne lâchez rien parce que maman ne veut pas qu'on fasse ça. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à ce que Dieu puisse nous bénir et on va le voir. Alors moi, dans mon cas, en fait, il m'a tout le temps repoussé ce moment-là. Ah, je veux faire le cercle. Mathilde, on fait le cercle et tout. Ah mince, il y avait un rendez-vous. Ah si, ah ça. Et on a repoussé. Il va nous culpabiliser. Il va dire, ah, si tu fais ton cercle, ça veut dire que... Et puis, il va vous mettre plein de raisons, peu importe. Mais il va être là. Donc, essayez d'avoir du discernement et puis ne vous laissez pas faire. Il va le faire. Il va essayer de vous titiller. Mais gagnez, prenez le dessus sur ces intentions-là. Et alors oui, Ghislaine, si tu veux prendre le micro.
Euh, Voilà, j'ai bien entendu. Bon, c'est vrai, on peut prier pour un besoin précis, par exemple, voyage, tout ça. Hein. Maintenant, bon, bien sûr, il y a la foi à la base pour que Dieu nous exauce, mais quand même, on a appris aussi à cette formation que la dîme, c'est en fait l'ouverture d'un compte, hein, et sur laquelle on dépose de l'argent, qui sont donc des offrandes. Maintenant, ma question, quand on prie pour un désir, comme un voyage, comme tu as dit tout à l'heure, enfin, alors maintenant, tu vas répondre pourquoi ? Parce qu'on on donne la dîme ou bien parce qu'on donne des offrandes ?
Très bonne question, et on va passer à la cinquième étape, si tu le permets. Donc, pardon ? Non, on était à la quatrième. La quatrième, c'était de préparer le cercle, de définir si chaque montant c'est trop élevé, trop pas assez, etc. C'est là où on a ce contact avec Dieu qui nous conseille, qui ajuste en fait notre tableau. Là, en fait, on n'est pas en train de dire j'ai tant et tant, je peux me permettre ça. Non. Là, on établit la base, d'accord ? Vous avez vu que tous les mois, vous avez des factures de courses qui s'élèvent à 100, 200, 300. Ça fait quoi ? 100, 200, ça fait 300, 600 euros. OK, dans votre case course, vous allez mettre 600 euros. Là, dans l'étape 4, Dieu va vous dire, ah, peut-être les courses, va falloir faire un peu attention. Tu restes à 500, etc. Mets-toi ça. Et on va ajuster. Maintenant, on est dans la cinquième étape et vous allez comprendre. La cinquième étape, en principe, donc, est possible de faire quand on a ce chiffre précis qui dit à la fin du mois ou à la fin de l'année, j'ai besoin de tant et tant. Là, vous allez avoir une somme qui va apparaître, d'accord ? Alors, si tu peux descendre, voilà, tac, tac, tac. Attends, voir, gestion des comptes. Montant disponible. Descends encore, ouais. Ok, vous allez avoir un montant disponible après. Alors, c'est pas tout à fait clair ici parce que moi j'ai déjà fait ma répartition. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Tu peux remonter un tout petit peu. Allez, le total ici, vos désirs, etc. 2900. Ok, vous avez un chiffre. Maintenant, il y a trois possibilités qui vont se présenter à vous. Vous avez, admettons, défini que pour avoir assez chaque mois, en 2018, il me faut, Seigneur, 2900 euros. Avec ça, je couvre tout, mes besoins, mes obligations et mes désirs pour l'année, nickel, les vacances, cool, nickel, voilà. Ça, c'est 2900, ok. Maintenant, vous avez donc trois possibilités. Maintenant, il va falloir évaluer vos revenus. Le cas numéro un, c'est mes revenus sont inférieurs à mes dépenses. D'accord ? Ça veut dire que je reçois, mais ça ne suffit pas pour atteindre 2900 euros. Le cas numéro 2, je reçois pas loin de 2900 euros. Allez, 2902 euros, nickel. C'est juste bien, ça tombe, ouah, nickel. Et le troisième cas, c'est je suis à 3000 ou 3500, 4000, 7000, bref, peu importe votre chiffre. Par rapport à 2009, j'ai suffisamment et puis c'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous rappelle encore, on répond toujours aux obligations en premier, aux nécessités ensuite, aux besoins ensuite, aux désirs en troisième, mais pas dans un autre ordre. On ne dit pas les vacances d'abord, d'accord ? À moins que vous l'ayez défini dans vos obligations, mais à vous après de faire les ajustements qui sont nécessaires. Donc, dans le cas où les revenus sont inférieurs à nos dépenses, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'argent pour répondre aux désirs ou seulement à quelques besoins. Pas tous les besoins, mais seulement quelques besoins. Si Dieu est d'accord avec vos dépenses, l'étape 4, d'accord ? On a prié, on a dit « Seigneur, tu m'as dit que c'était OK, j'ai la paix, OK. Je peux te regarder dans les yeux et te dire « J'ai besoin de 2900 euros, je peux te le dire droit dans les yeux. » Il voit votre fidélité, il voit votre foi. Et c'est pour ça, est-ce que tu peux monter ? C'est pour ça que j'ai dit, je vous conseille fortement de mettre la dîme et les offrandes en premier. Et les remboursements des dettes en premier. Pourquoi ? Parce que Dieu dit, remboursez vos dettes rapidement, remboursez. Sortez de l'esclavage, comme de la main de l'oiseleur. Okay, vous vous souvenez ? Dégagez-vous de ça. Ensuite, les offrandes. On a dit quoi ? Que ça alimentait notre compte de trésors dans le ciel. Et la dîme, ça fait quoi? Ça ouvre la porte. Ça ouvre les écluses du ciel, d'accord? Donc c'est important qu'on gère ça en premier, vous êtes d'accord? Ok, ça honore Dieu, tout ça, c'est bon. Donc, si mes revenus sont inférieurs à mes besoins, au cercle, etc., fermé, je suis dans la position, en fait, de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle maintenant. J'ai besoin que tu fasses venir ce que j'ai semé, ce que tu as multiplié, et je te demande de mettre la multiplication max. Dieu multiplie fois 30, fois 60, fois 100, on voit ça dans la Bible. Multiplie au max, je t'en prie, Seigneur, et envoie-moi de l'aide, parce que j'en ai besoin. Vous êtes en fait... Dieu est capable, en fait, pas forcément par quelqu'un, de donner de l'argent, mais peut-être qu'il va vous donner une idée. Fais ça, comme la veuve. Regarde chez toi, à la maison, t'as ça, tu pourrais peut-être faire ça. Mets-toi en action et tu vas voir, je vais combler tous tes besoins financiers, etc. Dieu est très, très créatif. Vous croyez ça? Dieu est vraiment très créatif. Donc, dans le cas où vos revenus sont inférieurs, vous êtes en mesure. Si vous avez fait ce que Dieu demande, vous avez le droit de dire, Seigneur, moi aussi je demande maintenant. Je galère là. J'aimerais bien partir en vacances, on a besoin. Parce que Dieu veut vraiment pour les désirs aussi, d'accord? Donc, peut-être que l'année prochaine, les vacances, on l'enlève. Parce que le temps que Dieu fasse le miracle, le temps qu'il y ait quelque chose, que la direction de Dieu vous soit donnée, etc., peut-être que vous devez faire, c'est peut-être aussi pour vous apprendre à être de bons gérants. Je dirais, t'as grillé pour les vacances, ça fait des années, maintenant on va juste un peu enlever les vacances, et puis on va réajuster tout ça. D'accord? Dieu n'est pas punitif, il est éducatif, je veux dire. Il veut vraiment nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'après ça a porté du fruit. Donc ça c'est dans le cas numéro 1, inférieur aux dépenses. Maintenant, si vos revenus correspondent à peu de choses près à vos dépenses, c'est super. Vous avez le droit de faire ce qu'il y a dans votre cercle, etc. Vous avez le droit de dépenser. À noter que si maintenant dans votre cercle, vos désirs, vous avez mis l'année prochaine une piscine, on fait une piscine, et que vous n'avez pas encore l'argent nécessaire, mais que vous mettez de côté donc par rapport à vos revenus, on fait toujours... On dépense quand on a l'argent. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se place de nouveau sous un endettement. On va dire, ah mais Seigneur, t'as accepté pour la piscine l'année prochaine. J'ai pas encore l'argent, on est en janvier. Ben, je la prends à crédit, il n'y a pas de problème. T'as dit que je pouvais, etc. Voilà. Attention, c'est une logique, un principe que Dieu établit. Quand on a l'argent, il a dit qu'on l'aurait. Donc, on se stresse pas, le Seigneur... Si, dans la mesure où vous avez eu les feux verts. Donc, si vous êtes dans le cas où vous avez juste assez, je vous encourage, et puis je ne suis pas le seul, mais les auteurs de plusieurs livres nous encouragent vraiment, là où je m'inspire dans ces enseignements, donc qui ne viennent pas de moi, je rappelle, vraiment à ne pas nous arrêter à juste, ah, j'ai juste assez, ok, c'est bon. Non, 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 non. Dieu veut qu'on soit des enfants bénis, qu'on aille dans la surabondance, dans le juste assez, dans le plus qu'assez, exactement, dans le plus qu'assez, la surabondance. Ça, c'est le cas numéro 3, où justement, on voit que nos revenus, ils dépassent, ça y va, on dépasse largement nos besoins, obligations, désirs, et là, on a de quoi donner. Justement, quand on fait partie de ces enfants qui peuvent dire « Seigneur, j'ai besoin de bref, X euros pour avoir assez chaque mois, chaque année, tout ce que tu m'enverras en plus, je l'investirai dans ton royaume. » Ou « Je l'investirai comme toi tu désires, Seigneur. » Tu as juste à me le dire. En fait, on est candidat. Là, on se met dans la liste, dans la file d'attente de ceux qui vont recevoir plus de ressources financières. Enfin, je le crois vraiment. Et je crois personnellement qu'on devrait être ceux... Et celle, en tant que chrétien, qui gère beaucoup d'argent dans ce monde. Vraiment, moi je crois qu'on devrait être trouvé parmi le peuple, parmi les Français, où wow, eux là, ils ont vraiment les comptes en banque qui sont blindés. Blindés. Dans leurs mains, en fait, beaucoup d'argent transite. Pourquoi? Parce que quand on a de l'argent, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a de l'influence? Et si les gens qui ont de l'influence, c'est des gens qui ont des convictions en Dieu, qui sont enracinés en Dieu, je crois que ça va vraiment amener des changements dans notre société. Okay? Et c'est pour ça que j'ai pas peur de dire, moi, Seigneur, je veux plus, etc. Oui, ben, j'essaie de faire comme tu m'as dit, Seigneur, et j'essaie d'être un gérant fidèle. Okay? Et on va terminer la leçon aujourd'hui. Donc, ça va, vous avez compris un petit peu le principe. Pareil, je peux vous envoyer ce fichier Excel. Tout est automatisé. À savoir, est-ce que tu peux remonter là dans mon calcul non, un tout petit peu moins. Si vous avez fait un calcul rapide pour voir si j'étais fidèle, vous avez vu que la dîme, j'étais pas du tout fidèle dans les chiffres. Qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui l'a... Voilà, j'ai dit que c'était un exemple, d'accord? J'ai mis les chiffres au hasard. Mais j'ai une formule qui automatise mes revenus et qui les met, qui me met un montant sur le brut. On a dit que la dîme est établie sur le salaire brut. Et ça correspond aussi à mes ressources. Là, j'ai mis une catégorie, donc on était dans les revenus tout à l'heure. J'ai mon salaire, le salaire de Mathilde. J'ai mon solde précédent qui correspond à... Tiens, le mois dernier, j'ai pas tout dépensé. Il me reste encore 200 € sur le compte. C'est de l'argent qui est en plus, vous êtes d'accord? Donc, c'est un report. L'entreprise de Mathilde, ressources miracles, j'ai mis les dons, les remboursements, la CAF, Airbnb, Blablacar, toutes ces choses qui viennent, que Dieu utilise pour amener des revenus supplémentaires dans nos foyers. Attente de remboursement luxe, si maintenant je paye une note pour l'église, etc. C'est de l'argent qui est sorti, mais c'est toujours l'argent que j'ai parce qu'il va m'être remboursé, il faut que je le comptabilise, etc. Et j'ai une formule donc qui calcule ma dîme, pas sur les remboursements, pas sur les attentes de remboursement, vous êtes d'accord? Ça, c'est déjà dans mon salaire, etc. Donc, il y a une formule qui prend exactement les cases qu'il faut, et puis ça s'automatise. L'offrande du mois, avec Mathilde, on a défini un montant. On dit, Seigneur, on s'engage dans ça, on le fait. Et ça, c'est pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je donne ça, etc. Je crois que Dieu dit, OK, waouh, il a pris cette décision et je vais vraiment honorer ce pas-là. Et les fruits après viendront. OK? Remboursement, etc. Okay. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous, sur le net, les amis, c'est clair aussi pour vous? Vous avez pu voir le tableau? Est-ce que c'est OK? Super. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, si vous, ici, vous avez besoin du tableau, vous avez envie qu'on vous aide, je propose qu'en dehors de la formation, on peut aussi vous assister, on peut vous aider. Je sais que certains ont bénéficié déjà d'une petite aide, de dire simplement, est-ce que tu es d'accord qu'on ait un regard sur tes chiffres? Nous, on va pas te juger ou quoi que ce soit. Je crois que ça peut être aussi pastoral. Il y a pas de problème. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent vraiment être de bons conseillers. Et je crois qu'on n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde, mais de mettre des outils comme ça en place, ça vous économise le temps de faire le tableau Excel, etc. Et je vous donnerai aussi d'autres outils pour le finir. Il est 9h15, je vais juste terminer par un dernier point. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. C'est très court, mais notez simplement, moi je vais le lire. Matthieu 21, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 1 à 3. On va finir avec ça. Alors, je vais le lire. Quand ils approchèrent, je vous laisse noter, Matthieu 21, versets 1 à 3. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant deux des disciples. Il leur dit, allez au village qui est là devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée avec son ânon, avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Là, je trouve ça intéressant. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. J'ai trop aimé ce passage. La première fois que je l'ai lu, et la première fois que vous l'avez entendu, comment vous avez réagi? Est-ce que c'était genre, wow, trop efficace, quoi. L'Esprit de Dieu, là, pff, quand il convainc, il convainc. Enfin, c'est... Alors, moi, je me suis pas trop dit ça. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis plutôt dit « Waouh, c'est un peu bizarre. Comment ça se fait que le propriétaire, comme ça, sans poser de problème, il accepte ?» Quand je me suis dit « C'est vraiment bizarre. » Je me suis dit « Waouh, est-ce que ça veut dire que genre Dieu lui a pas donné le choix, en fait ?» Est-ce que Dieu donne pas le choix finalement à ce qu'on a, et, etc. Parce que ce serait utile pour Jésus quand même. Enfin voilà, c'est mon fils. Jésus a un bon contact dans le ciel, etc. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Non, enfin je crois pas. En fait, c'est plutôt que le propriétaire, il devait être chrétien, il devait croire en Dieu, et il avait compris que ces deux animaux devaient être disponibles pour que quand le Seigneur en aurait besoin, c'est dispo. Je crois plutôt que c'est ça. Et il avait déjà prévu à l'avance qu'un jour, ces deux animaux-là allaient lui être demandés. Donc, il les a mis à dispo pour un but précis. Qu'est-ce que ça nous montre ? Alors, ce n'est pas une explication qui vient de moi, mais je l'ai trouvée vraiment super intéressante, hein, super intéressante, tout ce que je dis là. Donc, dans la même pensée, en fait, pourquoi pas ouvrir un compte, donc dans les catégories, notre budget, etc., ouvrir un compte qu'on appellera « Le Seigneur en a besoin ». Ok ? Et on y met un investissement qui est issu de nos surplus financiers, la surabondance qui vient. Seigneur, là, tout ça qui est en plus, ben je prends une partie et je le mets dans ce compte-là. Et quand tu en auras besoin, Seigneur, tu peux me demander de le faire. Je vais libérer cette somme pour la semer là où tu me diras, là où tu veux. Et en fait, c'est justement cette idée-là. Je me disais, waouh, tout le monde n'a pas un compte. Le Seigneur en a besoin. Alors justement, en dehors du compte d'épargne, que oui, le Seigneur va envoyer la surabondance, je ne l'ai pas développé ici, mais peut-être qu'il va d'un coup ouvrir les écluses des cieux pour qu'on rembourse notre prêt immobilier, pour qu'on achète une maison, pour qu'on fasse, qu'on rembourse déjà nos dettes. Ça, c'est souvent la première chose par laquelle il commence. Et ensuite, il va nous permettre de peut-être désendetter quelqu'un, de sortir un pauvre de la rue, de le former, de lui payer une formation, de payer. Enfin, il y a vraiment plein de choix. Mais le compte le Seigneur en a besoin. Si on met ça en place, je crois qu'un jour il va dire OK. Et puis le témoignage, j'en ai déjà entendu. Ben, il disait OK, Seigneur, on avait mis ça de côté. Tu veux qu'on utilise ça maintenant? OK. On va augmenter les fruits de notre justice, on le verra plus tard, en faisant ça en fait. Et Dieu va se servir de notre argent pour faire des choses extraordinaires, parce qu'il a vu qu'on a gagné une épargne. Vous croyez que dans le monde, les gens qui reçoivent beaucoup plus d'argent, ils vont juste le garder pour le Seigneur, ou pour, au cas où, etc. Je crois que beaucoup de personnes dilapident leurs ressources, et quand on fait ce type de compte-là, on peut en faire plein d'autres. Bah, je crois que le Seigneur honore et ça lui fait vraiment plaisir. Donc, c'était simplement une petite idée que je vous suggère. Mathilde et moi, on va aussi y réfléchir encore. On doit y travailler. Donc voilà, je vous encourage. Je voudrais vraiment vous encourager à devenir ces gérants fidèles. Je le dis souvent. Et en fait, on a vu que ça passe par le fait de savoir où vont nos ressources. Et c'est pour ça que le budget, un budget régulier, ça sert à rien de faire un budget par année et puis de dire « Ok, il faut que ce soit mensuel. Pourquoi ? Parce que mensuellement, vous allez avoir des dépenses, vous allez avoir des sorties, vous allez avoir des entrées, vous allez avoir des choses. Il faut avoir un regard mensuel. Sinon, dans les entreprises, ils feraient des budgets annuels, etc. Maintenant, ils le font aussi mensuellement. Alors, note bien ta question au cas où. Et Dieu va pouvoir nous utiliser vraiment puissamment et va nous permettre à la fois d'être utilisé. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, Seigneur, je veux être un instrument. Mais il va aussi nous bénir et on va vivre des miracles. Et c'est ça qui est excellent. Alors, on a un petit peu tardé ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Ghislaine, tu as dit que tu avais une question ?
Sujet, mais quand on demande à Dieu de multiplier 20, 50, 100%, mais il va multiplier quoi ? La dîme ou les offrandes ou les deux ? C'est ça. Les offrandes, moi je comprends les offrandes. Ouais. C'est ce que je comprends. Oui. C'est juste ?
Il multiplie les offrandes, oui.
D'accord.
Bibliquement, en fait, la dîme ouvre les écluses.
C'est juste l'élevation d'un compte,
Et c'est pour ça qu'en fait, entre guillemets, ça sert à rien de donner, si vous dites... Ah, ben si je mets beaucoup plus de dîmes, il va multiplier beaucoup plus de dîmes. Non, Dieu dit que la dîme, c'est 10%. Mais ensuite, vas-y, donne des offrandes et augmente le chiffre de tes offrandes. Vas-y, là, tu peux y aller.
De toute façon, on augmente sa dîme, Dieu va le compter le surplus comme une offrande, de toute façon.
Je pense pas, non.
Non?
Je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est une attitude de cœur. C'est aussi le fait de dire, ok, Seigneur, c'est mes revenus. Pourquoi je donne? C'est là où vient la compréhension de la dîme, où vient la compréhension des offrandes, etc. Et souvent, les gens, ils peuvent dire, ouais, mais je donne ma dîme tous les mois et je vois rien arriver en retour. Oui, la dîme, c'est une semence. C'est ce qui fait, c'est ce qui ouvre les écluses des cieux. On a vu ça. Et on va alimenter notre compte qui a les portes ouvertes par nos offrandes. Ézéchiel, c'est OK pour toi, Gisèle?
Ouais, j'aimerais savoir. Est-ce que tu aurais des détails par rapport au moment où tu as demandé à Dieu de, comment augmenter ton cercle? Je veux dire, comment ça s'est déroulé, en fait?
Comment augmenter mon cercle?
Ouais.
Bah, c'est simplement... J'ai vu mon cercle, j'ai vu les besoins venir en fait à moi plutôt que j'en ai créé en fait. Par exemple, avec Mathilde, on a besoin d'une voiture, une plus grosse voiture ou une voiture adaptée à nos besoins de famille, etc. Voilà, Seigneur, ben on lui soumet ce point-là. Ensuite, il y a un deuxième bébé qui arrive, ben, le point, etc. Et tu construis comme ça. Après, le plus on sera précis sur une année, etc., il y a des choses, c'est là où il y a encore une ambiguïté pour moi, et c'est vrai que je creuse ça, cet aspect-là, c'est de savoir, Seigneur, ça veut dire qu'après, s'il y a quelque chose d'imprévu, j'ai pas le droit de le mettre dans mon cercle. C'est là où Dieu dit, mais non, ce cercle n'est pas fermé, tu as le droit de le réévaluer avec moi, et tout se fait dans la prière, et Dieu nous dirige. Donc c'est pas figé, faut pas le voir comme quelque chose de figé, à chaque année, 1er janvier, c'est figé pour toute l'année. Non, non.
Okay. C'est toujours en fonction des besoins que tu calcules ça, en fait.
Par exemple, regarde, dans le tableau, dans mes obligations, j'ai le loyer. D'accord ? Si je déménage, mon loyer va changer. Il va peut-être diminuer ou je vais peut-être plus avoir de loyer vu que je serai propriétaire. D'accord ? Donc, il y a une ligne qui s'enlève dans mes obligations. D'accord ? C'était une bonne remarque. Je suis pas propriétaire, je suis gérant de la maison que Dieu va me donner. Donc, mais tu vois, donc ça fluctue. Mon tableau peut changer. Et c'est en fonction de comment tu avances dans la vie que je pense que ça évolue. Quelqu'un d'autre, ça répond à ta question?
J'aimerais savoir si c'est possible de le faire par rapport au désir, parce que je sais que pendant l'introduction. Cœur, tu racontais des fois, papa, j'ai une grosse voiture et tout, un truc comme ça, tu vois.
Ouais.
Enfin, parce que voilà quoi, il peut. Enfin, je veux dire, il peut, c'est dit, il peut. Après, c'est pas, ça ne veut pas dire que Dieu va pas forcément répondre. Il a pas promis. Mais je veux dire.
Exactement.
Il peut augmenter. Enfin, je veux dire, on peut augmenter son cercle en fonction de ce genre de demande quoi.
Bien sûr. Au bout d'un moment, tu peux dire, j'ai un désir sur le cœur. Je te le soumets, Seigneur. Est-ce que j'ai le droit de l'intégrer dans mon cercle cette année? Ou il va peut-être te dire ça, attends encore un petit peu, etc. Et tu vas le sentir dans la prière. Ou avec un conseil d'un ami, quelqu'un il va te dire, waouh, il va te diriger, etc. Mais oui, si d'un coup tu as envie d'une super voiture, moi j'aime toujours le dire, Seigneur, si c'est un caprice, moi j'ai juste besoin de te l'exprimer, mais reçois ma prière et puis... aide-moi à passer ce caprice et à reconnaître que c'est un caprice, si c'en est un. Et si c'est pas un caprice, peut-être que Dieu va pouvoir me donner une récompense parce que j'aurais bien travaillé, parce que simplement je suis un de ses enfants, il va me faire une grâce. Il a vu que j'aime trop les voitures de sport. Pourquoi je vais lui donner, je sais pas, un bateau, voilà. Il sait ce qu'on a envie, il sait ce qu'on désire avant même qu'on l'ait dans notre cœur. Mais c'est là où notre relation avec Dieu va s'affiner, va être plus intime, plus profonde. Et peut-être que le désir que tu avais, il va plus être aussi important parce que Dieu va dire, ah, t'es sûr? Regarde, ah, mais oui. Et puis tu vas reconnaître que ce désir-là était juste futile ou alors que c'était vraiment un saint désir. Ok, vas-y Raymond. Attends, prends juste le Raymond. Prends juste le micro.
Je participe. Enfin, tu disais que celui qui ne remboursait pas ses dettes, enfin, en gros, c'est un méchant. C'est ce que j'ai compris. Quand je participe à... Je ne sais pas, j'ai... Oui, ça va, vous m'entendez là? Voilà. Voilà, ça va mieux. D'accord. Quand je m'engage envers une personne et que cette personne, elle ne veut pas rembourser ses dettes. Mais je suis engagé. Je me suis engagé. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai ma famille, j'ai dans ma famille quelqu'un, bah, tiens, par exemple, Luc, lui qui vient et puis il me dit, voilà, j'aurais besoin de tant d'argent. Je vais acheter une voiture. Le garagiste dit, d'accord, pas de problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se porte caution.
Ok.
Voilà, qu'il y ait quelqu'un qui se porte caution. Je me porte caution pour toi. Toi, tu te dis cool. Maintenant, je suis tranquille. Je ne rembourse plus. C'est moi qui rembourse.
Ouais.
Mais si je ne me libère pas de cette caution que j'ai mise à... Est-ce que je ne participe pas à ton péché
ou pas? Alors, est-ce que vous vous souvenez...
Tu dis... Le méchant, c'est celui qui rembourse, qui veut pas rembourser. Mais si je suis conscient que tu ne veuilles pas rembourser et que je suis obligé, parce que est-ce que je ne suis pas participant?
Alors, est-ce que vous vous souvenez, c'était la leçon dernière sur l'endettement, sur le cautionnement. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu, justement? C'est vraiment... Dieu, entre guillemets, interdit le cautionnement. Donc, il dit, on veut pas, alors je ne sais plus les versets maintenant, mais je peux les retrouver. Et il faut se dégager, comme on le disait tout à l'heure, de l'oiseleur. C'est comme ça que c'est écrit, je crois. Il faut ne pas se porter caution, donc se dégager au plus vite. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, on va participer à quelque chose qui va soit être péché, ou alors on va se mettre dans des gros, gros problèmes parce que l'autre ne va pas rembourser et on va être obligé de le faire. Donc c'est très très dangereux de se porter caution et Dieu nous dit ne vous porte pas caution. Si tu te portes caution, on pourrait même te prendre ton lit. Vous vous souvenez du verset? Voilà. Donc c'est important. Oui,
je suis d'accord. On se porte pas. Mais bon, je me suis porté caution. Maintenant, je suis obligé de. Je me suis porté caution. Je suis obligé. D'aller jusqu'au bout.
Mmh. Ouais.
Donc je peux passer par les tribunaux pour me libérer de ces choses-là.
Probablement, après ça, effectivement.
Non, c'est juste
regarder...
pour savoir. Hein, c'est en tant que chrétien, ou dire à la personne, ben voilà, maintenant je t'envoie au tribunal parce que tu ne veux pas me payer. Ben, la personne va dire, tu t'es porté caution, tu te débrouilles.
Non, c'est juste creuser pour le savoir, sujet, mais effectivement, oui. Dans ce cas-là, oui. C'est difficile et on voit que le fait de t'être porté caution engendre une situation très difficile. Mais après, effectivement, on peut-être saisir les tribunaux. Le mieux, dans la parole de Dieu, c'est aussi, il y a un verset qui me vient qui dit, plutôt que d'aller saisir le tribunal, va t'arranger avec ton frère, etc. Et va lui dire, essaye, mais sinon, s'il n'y a pas le choix, faut le faire, quoi. Et je pense que oui, il faut se dégager le plus vite possible de cette dette, parce que finalement, on prend la dette de quelqu'un et on se met sous un joug qui ne nous appartient pas. Et finalement, voilà. Ouais. Alors, je vais juste permettre à ceux qui, parce qu'on a dépassé une demi-heure, merci sur le net. Si vous avez besoin de quitter la conversation, il n'y a aucun problème. On ne va pas arrêter l'enregistrement là, donc. Il n'y a pas de souci. J'aimerais juste annoncer que le 29 novembre, c'est notre prochain rendez-vous. C'est mercredi prochain. Et on va parler d'honnêteté. C'est le chapitre suivant. Donc, bossez bien cette leçon. Et si vous avez des questions, je suis d'accord de pouvoir maintenant répondre. Donc, merci à ceux qui ont suivi sur le net. Merci d'avoir pris un peu plus de temps. Et je voudrais maintenant accorder un petit peu de temps, si vous avez des questions, de faire durer un petit peu plus longtemps. Il n'y a pas de problème pour moi. Donc, voilà. Merci en tout cas, Nadine. Si vous voulez rester, il n'y a pas de souci. On va pas couper le net, mais si vous avez besoin de partir, il n'y a pas de souci. Merci pour votre attention en tout cas. Non. C'est enregistré encore.
Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que Raymond il a dit, tu vois, par rapport aux sans-être, c'est quand même malheureux qu'il, lui, il s'y prend garant pour quelqu'un et qu'après, cette personne, elle a soit marionnette et il ne paye pas, tu vois. Ça m'était venu comme ça, en sachant qu'on a un père vraiment merveilleux et quelqu'un très grand, très puissant. On pourrait aussi prier dans le sens qu'on donne ça, tu vois, parce qu'on a eu un bon cœur de faire le bien à quelqu'un et que cette personne, par la suite, elle essaye de, voilà, de faire ces malheurs-là. On peut aussi prier pour cette personne et dire à Seigneur, voilà, je fais le bien et maintenant, regarde ce que j'ai eu. Tu vois, et peut-être que Dieu aussi va trouver une solution pour résoudre ces problèmes parce que c'est pas cool. Enfin, non, je dis le truc.
C'est le cas de cette personne. En fait, je suis complètement d'accord que Dieu va accorder sa grâce et qu'il ne va pas juste laisser maintenant tu te débrouilles, etc. Mais le fait que Dieu ait dit ne te porte pas caution et qu'on le fasse quand même, ça veut dire qu'on n'a pas obéi finalement à un conseil qu'il nous a donné. Donc, simplement, pour que Dieu puisse après libérer sa grâce, il suffit de faire Seigneur, je te demande pardon, de se repentir par rapport à ça, dire ok, ben. Ou peut-être je ne savais pas, je n'ai pas lu ta parole, je savais. Bref, on se repent par rapport à ça. Et Seigneur, je te demande de faire grâce et puis je ne le referai plus. Mais montre-moi, aide-moi à me sortir de ces problèmes. Et là, je crois vraiment sincèrement que Dieu va faire un miracle et va intervenir parce qu'on aura compris, on aura grandi et on aura vécu un miracle parce qu'il arrive. Ok. Alors, juste garde là, si soit tu l'as dit au micro, ou alors on va couper la vidéo. Ben, on va couper la vidéo. Merci les amis en tout cas d'être restés. On vous envoie des gros bisous en Belgique et puis à Saverne aussi. Je crois que c'est Saverne, hein, Gary. Ah d'accord, ok. Oh ben alors encore plus loin pour les bisous alors. Bonne soirée, à bientôt, on vous tient au courant pour la suite. Soyez bénis.